Salut Enzo, bienvenue sur Offcast.
Salut Gaël.
Pour une fois, on n'est ni sur Phoenix, ni sur Aventure Humaine. On va passer à peu près une petite heure pour en apprendre un peu plus sur toi, sur ton parcours et sur cette belle aventure du podcast que tu as lancé il y a quelques mois, bientôt un an peut-être.
Début d'année, ouais, début 2020, pile début février en fait, j'ai lancé ça, ouais. Donc ça fait maintenant 6-7 mois, quoi. Avec un petit mois de break, là, on rentre de vacances, c'était mois d'août, on a fait un mois de break histoire de souffler, quoi.
Alors en 2020, on en a eu un petit peu plus besoin, très très particulier, mais du coup, une très belle année podcastique, on va dire. Première question, est-ce que tu peux te présenter et... on va passer un petit peu de temps sur déjà la première partie de ta vie, de ton parcours.
Ouais, alors du coup, bah moi je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 27 ans donc là depuis cette année. Je suis Head of Sales chez WeHelp, qui est une structure d'aide à domicile pour personnes âgées. Une startup que j'ai rejoint il y a presque 3 ans maintenant, ça fera 3 ans à la fin de l'année. Et moi, à la base, j'ai plutôt un parcours, enfin un profil sportif. J'étais en sport de haut niveau jusqu'au bac. Après le bac, j'ai décidé de partir à l'étranger. J'avais envie
Quel
de...
Quel sport ?
Je faisais du basket, pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas précisé.
Okay.
Je faisais du basket pendant très longtemps. Ça a un petit peu cadré toute ma vie. Ouais, donc jusqu'au bac, comme je te disais. Après le bac, j'ai voulu me faire une expérience à l'étranger. J'en avais un petit peu marre du système éducatif français. Donc j'ai eu l'opportunité de partir soit en Suisse, soit au Canada. Et j'ai décidé de partir en Suisse parce que c'était un peu plus proche. Moi, j'ai des parents qui sont divorcés aussi depuis que je suis petit. Donc je vis avec ma mère donc, depuis que j'ai 2 ans et demi. Et c'était plus facile pour moi de faire ce choix de partir en Suisse que de partir au Canada. De ne pas être trop loin d'elle si jamais il y avait besoin de rentrer ou quoi. Donc j'avais choisi un peu cette solution-là. Et surtout, en fait, parce que c'était donc HEC Lausanne, là où je partais. Et que quand tu sors du bac, on te dit il faut que tu aies une expérience de ouf pour ton CV, tu vois. Donc je me suis dit, trop bien, HEC sur mon CV, ça va être trop bien.
Ça le fait.
Pas du tout. Pas du tout. Non, non, au bout d'un semestre, même pas, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi, que c'est beaucoup trop orienté finance, compta. Il y a une sale ambiance aussi, c'est vraiment comme un peu en fac de médecine,
compète.
J'ai envie de dire, ouais, compète.
Ah ouais.
Tu sors de l'amphi, si t'as pas ton ordi, tu te le fais voler, on te déchire tes fiches. C'est vraiment une sale ambiance, parce que le truc,
ah ouais,
c'est
pas,
que...
Pas cool.
Pas cool du tout. En première année, en fait, t'arrives, t'es genre 1200 élèves, et il y a que 350 places pour la deuxième année. Donc c'est
ouais.
Vraiment...
c'est comme chez médecine.
Exactement,
ouais,
c'est
le
même principe, donc j'ai pas du tout kiffé, et en fait je kiffais pas du tout sur tous les cours. Donc je me dis ok, j'arrête cette expérience-là. Je reste en Suisse parce que mes parents avaient payé du coup un loyer à l'époque, donc il me restait un semestre à faire, et je me dis il faut que je trouve un taf. Mais je trouve un taf, peu importe où, je m'en fous, il faut que je ramène juste des sous. Donc je postule chez McDo, je postule au pâté, au cinéma pâté, je postule un peu n'importe où, j'ai zéro réponse parce qu'en Suisse, quand t'es pas Suisse, c'est compliqué de trouver du taf, très clairement, même en tant qu'étudiant. Et donc j'ai un pote qui me dit « Ouais tiens, tente cette expérience-là, j'ai un pote qui a fait ça, tu verras, je sais même pas dans quoi je m'embarque, juste j'envoie mon CV ». Je chope un entretien d'embauche et en fait c'était pour une boîte qui s'appelle Coris AG, qui fait en fait du fundraising, de la levée de fonds pour ONG dans la rue. En gros, j'ai stigmatisé tous les connards que vous voyez dans la rue là au Gard avec leur gilet qui font « Mademoiselle, 5 minutes pour sauver les pandas ». Bah du coup genre moi j'ai fait
à
ça pendant assez longtemps.
Ouais.
J'ai fait ce taf là en fait, je savais pas dans quoi je m'embarquais et j'ai fait ça pendant à peu près 7 mois mais en fait jusqu'à la rentrée de septembre. Et j'ai trop kiffé en fait, j'ai trop kiffé parce que...
C'était très très formateur.
Formateur de fou, meilleure école de vente de ma vie, très clairement. J'avais une équipe dont j'étais totalement amoureux, les gens avec qui je bossais, je les surkiffais. Mon coordinateur, Fab, si un jour il m'écoute, Fabien Bontaz, une pépite ce mec, il m'a fait confiance au bout de 2 semaines, enfin où je galérais, parce que les 2 premières semaines, je peux dire, sur ce genre de taf, tu galères bien, bien méchamment, t'oses pas arrêter les gens, t'as pas confiance en toi, etc. Et au bout de 2 semaines,
puis,
je craque le truc. Et
ouais,
ça marche.
Tu te ramasses des bâches dans tous les sens.
H24. Dis-toi bien que les gens, t'es la dernière personne sur Terre avec qui ils ont envie de parler, en fait. Et le matin...
Ils ont un mépris, enfin... Mais je me mets à la place, hein. Quand je trace sur le trottoir, je trace, quoi.
C'est ça. Tu trouves toutes les excuses les plus bidons de la Terre.
Je regarde l'heure, alors que j'ai même pas de montre.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais du coup, c'est drôle. Moi, j'en veux pas aux gens. J'avoue qu'avant de le faire, j'aurais fait pareil. C'est ultra formateur et franchement, j'adore ce taf. Je prends beaucoup de plaisir, surtout pour défendre des causes humanitaires, parce que j'ai fait plein de types d'associations différentes. J'ai fait Save the Children, donc pour les enfants, pour lutter contre la faim dans le monde. J'ai fait Aider Action, Quatre Pattes pour les animaux, Green Cross pour l'environnement, Pro Infirmis pour les gens en situation de handicap en Suisse, Pro Juventute pour le suicide chez les jeunes en Suisse. Donc franchement, un panel assez large et c'était hyper enrichissant.
Et au bout de 15 jours, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu craques? Est-ce que tu as toujours une méthode, une phrase, un sourire, une pépite?
Ouais, à force, en fait, tu commences un peu à mettre de côté le fait que les gens, ils en ont rien à foutre de ta tronche. Et tu craques un peu le truc, ouais, tu vas plus facilement vers les gens où tu sais que ça va le faire. C'est un truc bête, mais en réalité, et les filles, c'était pareil, tu vas plus vers le sexe opposé, un truc que tu comprends pas forcément au début. Moi, j'allais plus vers les femmes, et les filles avec qui je bossais, elles allaient plus vers les mecs, parce que le courant passait mieux instantanément. T'as les petites phrases d'accroche, t'as le sourire... et puis surtout, tu as la présentation où tu es beaucoup plus sûr de toi, la présentation aussi du formulaire, parce que les gens, à la fin, il faut quand même qu'ils rentrent leurs coordonnées, sortent leur carte de crédit, et s'en mettent en moyenne pour 20 balles par mois et qu'ils repartent avec le sourire. Donc ça, à force, tu vois, c'est un truc qui se travaille. Et au bout de 2 semaines, bah ouais, j'ai commencé à craquer le truc et j'ai fait des super chiffres. J'étais meilleur dialogueur de Suisse plusieurs fois. Et donc du coup j'avais pleinement confiance en moi, comme je te dis j'adorais les mecs avec qui je bossais, je me levais le dimanche, j'appelais ma chef d'équipe en disant on se rejoint à la gare, elle dit mais Enzo, on est dimanche là, je dis merde putain je pensais qu'on était lundi, j'étais trop content qu'on aille bosser, je te dis genre c'était ouf, il y avait une ambiance de dingue, c'était vraiment une famille quoi.
C'est drôle que cette étiquette de dialogueur, que ça s'appelle dialogueur, ouais. C'est pas mal puisque maintenant tu es podcasteur.
Exactement.
Et tu dialogues aussi.
Exactement.
C'est chouette.
Non, c'est ouf. Franchement, donc super belle expérience. Donc j'ai fait ça jusqu'à la rentrée de septembre. Donc c'était 2013. Et après, donc j'ai repris des études en management du sport. Je me suis dit, quitte à reprendre des études supérieures, parce que là je venais de me prendre un gros mur dans ma face. En échouant donc du coup scolairement, je me dis bon vas-y, qu'est-ce que je fais? Ce que je kiffe dans la vie, c'est le sport. Ça a toujours un peu régi ma vie. Donc, je vais partir dans des études là-dedans. Donc, je trouve une école à Paris. Je recontacte ma conseillère d'orientation de lycée, avec qui j'avais un super bon contact à l'époque, qui m'avait, elle, conseillé justement de partir soit à HEC Montréal, soit à HEC Lausanne. J'avais eu un
super bon
fit. Tu es
l'un des seuls.
Ouais, sans doute. C'est vrai, parce que les conseillères d'orientation, c'est pas ce qu'il y a de plus. Hein. Voilà, on va pas s'étendre sur le sujet.
Ah mais c'est bien.
Elle, Madame Coste, je peux la citer aussi. Très, 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 très cool, cette nana. Et je la rappelle un peu en détresse. Qu'est-ce que je peux faire? Je viens de me planter. Moi, je veux faire du sport. Enfin, j'adore le sport. Et elle me dit, écoute, il y a une école. Elle s'appelle Sports Management School. Donc, c'est à Paris. Écoute, va faire les tests pour y rentrer. Et je rentre très facilement du coup dans l'école et je reprends donc les cours en septembre. Et donc 2 ans de management du sport à Paris, où pour la première fois de ma vie, je deviens un major de promo même carrément. Donc je me dis, waouh, en fait, j'ai peut-être fait le bon choix d'un coup là. Je me dis, tiens, c'est cool, maintenant j'ai un peu plus mûri, je sais pourquoi je suis là. Du coup, ça se ressent clairement. Et donc, je fais 2 ans d'alternance dans différents domaines, enfin toujours dans le sport, mais je veux dire, je teste l'événementiel, je teste le marketing, je teste le commercial, je teste la communication. Je suis assez partisan, comme j'aime bien dire, de la technique de l'entonnoir, tu sais, où du coup, à l'époque, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, mais à force de démultiplier les différentes actions, je sais en tout cas ce que je ne veux pas faire. Et donc, je teste un peu tout ça. Bon, au bout de 2 ans, j'ai l'opportunité, ma 3e année, de partir au Canada, donc en échange pour 1 an. Donc je me dis, tiens, c'est cool, la boucle est bouclée. Je ne suis pas parti au Canada à l'époque, mais maintenant, je vais y partir. Pour faire de l'entrepreneuriat à gestion de PME. Donc j'avais l'opportunité aussi de faire un double diplôme pour mon bachelor. Et je voulais monter une boîte, moi, à l'époque, avec un pote de promo. Donc je me dis, c'est génial, les planètes, elles sont alignées. Écoute, ma 3e année, je vais au Canada et je vais faire autre chose. Parce que le management du sport, je commençais un peu à tourner en rond et me rendre compte au bout de 2 ans que le sport, c'était vraiment une passion, mais que je ne voulais pas forcément bosser dedans. C'est un milieu mine de rien, enfin qu'on se le dise, hein, qui est assez fermé et assez machiste, donc ça me plaisait pas trop pour ça malheureusement, Et donc, je me dis, bah écoute, je vais au Canada. Je passe un an là-bas, on monte notre business plan avec mon pote, on s'éclate, c'est super sympa, et on rentre et on monte notre boîte. Donc, du coup, c'était une boîte qui s'appelait Wash & Move. C'était une boîte de nettoyage automobile itinérant et écologique, si je puis dire. En gros, on se déplaçait sur le siège des entreprises ou chez les particuliers et on offrait une prestation premium intérieur-extérieur pour laver la bagnole avec seulement 1,5 litre d'eau. En fait, on faisait tout à la vapeur pour l'extérieur et tout à la main à l'intérieur. Et donc, c'était génial. C'était un gain de temps considérable pour les gens, pour une tâche, tu vois, qui est très fastidieuse, une corvée que personne n'a envie de faire pour laver sa bagnole. Donc, c'était en Suisse. On a monté ça à Genève parce que mon pote, du coup, était là-bas.
Ah, ok.
Ouais, je suis reparti du coup en Suisse.
Il l'avait rencontré à Lausanne.
Non, mon pote, justement, c'était drôle. C'est que je revenais, moi, de Lausanne, lui, et on s'est rencontrés pendant nos 2 années à Paris. Et donc, quand je suis arrivé et que tout le monde s'est présenté, moi, je revenais de Suisse. Lui, il dit qu'il est Suisse. On a tout de suite fité. Et puis après, pendant 2 ans, on était cul et chemise, même 3 ans, parce qu'on était du coup ensemble au Canada. Et c'était des super années. Et lui, du coup, il voulait repartir en Suisse. Moi, à l'époque, j'avais ma copine avec qui j'étais pendant assez longtemps, qui était du coup Suisse aussi, qui était à Lausanne. Donc, je me dis, cool, je vais repartir vivre en Suisse. Enfin, moi, je me vois bien faire ma vie là-bas. La qualité de vie, elle est top. Ma copine est là-bas, mon associé est là-bas. Bon, bah viens, on monte le business là-bas. Surtout qu'il y a une opportunité de marché plus intéressante qu'à Paris, parce que ça commence à être saturé à Paris, ce genre de service, qu'en Suisse, il n'y avait pas. Donc on se dit, cool, on y va. On a 22, 23 ans, on monte notre projet entrepreneurial. On y va un peu avec le couteau entre les dents. On ne sait pas trop ce qui nous attend, mais on y va. On se dit que c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. On n'a pas d'enfants, on n'est pas marié, on n'a pas de loyer, on n'a pas tout ça. Donc s'il faut qu'on tente l'expérience, c'est un peu maintenant, quoi. Et donc on se lance.
50-50,
ouais, 50-50.
Un petit peu d'investissement, un petit peu de truc ou...
C'est ça, un peu d'investissement parce qu'en Suisse, une SARL, ça coûte quand même 20 000 francs. Donc,
Suisse, ok.
Ouais, 20 000 balles, donc on met chacun, on fait 50-50, hein, on met 10 000 chacun, on se met à 50-50 du coup sur les parts, et puis là, on est parti.
Ok.
Très très dur les premiers mois, je te l'avoue, parce que quand tu sais pas trop vers où aller, première fois que tu montes un projet, tu te dis, wow, le matin, tu te lèves, tu te dis, wow, attends, je suis chef d'entreprise, mais personne va venir me lever le matin si je fais rien, donc il va falloir vraiment que je me sorte les doigts et que j'aille au charbon. Donc assez dur les 2-3 premiers mois, c'était la fin d'année, c'était de septembre à Noël. J'avoue que je rentre chez moi à Paris à Noël un peu déprimé parce que je me rends compte que c'est dur. En Suisse en plus je vis pas chez moi, je vis chez mon pote, je vis chez mon associé. Donc pareil, assez malaisant parce que j'avais pas assez d'argent pour me prendre un loyer et tout à l'époque. Donc on s'était entendu pour que j'aille chez lui. Mais c'est assez malaisant, t'as la famille et tout qui est là-bas, donc tu te sens pas trop à ta place.
Très compliqué à gérer tout ça, ouais.
Ouais, parce que t'as la partie émotionnelle, donc enfin ouais, humaine quoi, tu vois, où toi t'es chez eux, tu t'as l'impression vraiment de déranger, de pas être à ta place, et t'as toute la pression aussi professionnelle de dire, vas-y, j'ai lancé un projet, j'ai mis un peu des billes dedans, faut que ça marche quoi. Donc t'as double coup sur la tête. À Noël, je me sépare de ma copine avec qui j'étais depuis presque 4 ans. Donc pareil, tiens, encore un coup de machette sur la tête. Et je t'avoue que je suis déprimé de ouf à Noël. Je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Je m'enferme dans ma chambre, je suis à Paris.
Je suis pas dans les bons rails.
Ouais, il y a un truc qui va pas, Je t'avoue que j'essaie de me recentrer un peu sur moi-même. Je me fous dans ma chambre, j'écoute du classique. Je me dis, vas-y, il faut que je me détende, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas, quoi, putain. Et je reviens beaucoup plus sûr de moi. Donc au nouvel an, je repars du coup là-bas en Suisse et je me dis, vas-y, maintenant, il faut qu'on charbonne vraiment. Au pire, on donne tout. Au pire, on se plante, mais tant pis, quoi. Mais au moins, on aura vraiment tout donné. Et là, on commence à faire beaucoup plus de réseautage, beaucoup plus de networking, beaucoup plus d'événements. Donc, on commence à rencontrer des gens. En plus, on est un peu catégorisé comme les deux petits jeunes qui veulent se lancer. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une facilité quand t'es jeune et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est que tes pères, ils vont quand même te soutenir, tu vois. Ils vont dire, c'est bien, mon gars, que tu te lances à cet âge-là. Et donc, du coup, ils vont te tendre des perches, ils vont t'ouvrir leur réseau beaucoup plus facilement. Et donc, ça, pour les jeunes, s'il y en a qui écoutent, il faut vraiment pas... Faut pas avoir peur, faut se lancer parce que vraiment ça fait plaisir de voir des gars qui ont une vingtaine d'années et qui ont les couilles de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Exactement. Il y a du peps, un dynamisme, presque une petite forme de naïveté aussi.
Exact.
Et d'innocence et go quoi.
Exactement.
Ok.
Donc franchement, t'y vas. Et à côté de ça aussi, je commence à mettre en place, donc on parle de ça, c'était fin 2016, début 2017. je commence à mettre en place une vraie routine, tu vois. Parce que j'essaie de m'instruire, j'essaie de lire un peu des bouquins et tout à côté, je regarde un peu ce qui se fait, et j'étais déjà un peu là-dedans depuis un an où j'étais parti au Canada, à faire de la méditation, à faire un peu d'étirement le matin quand je me lève, à me mettre à la lecture quand j'étais au Canada, alors que j'ai toujours détesté la lecture, parce que le système éducatif français, il t'incite pas forcément à aimer ça, hein, qu'on se le dise. J'ai toujours réfuté totalement la lecture, et avec le temps, je m'y suis mis. Et donc, à partir de ce moment-là où je rentre, où j'ai un peu plus le couteau entre les dents, je me mets une routine matinale de mutant. Genre, je me dis, ok, je me lève à 6h, 6h30 max, et maintenant, quand je me lève, voilà, je m'étire un petit peu. Je me fais un petit peu de sport, genre un petit quart d'heure histoire de me réveiller. Je me fais un petit quart d'heure de méditation. Je me pose, je fais 20 minutes de lecture. Je me prends un bon petit déj, un café. Et vas-y, on est parti au taf. Et à 8h30 max, je suis au taf, quoi, tu vois. Et je suis au taquet. Et donc, j'ai essayé d'entretenir vachement cette routine avec, pareil, aussi le soir ce qu'on appelle du coup une sorte de journal de gratitude. Donc j'essaie de me répertorier ma journée, mes 3, 4, 5 points positifs de la journée pour essayer de m'endormir un peu avec ça en me disant « Ok, c'est cool, t'as passé une bonne journée, t'es sur les bons rails. Le lendemain matin, tu te réveilles, t'es positif, tu vois. » Et j'essaie d'entretenir cette routine-là.
Et ça change tout,
de ouf. Parce que tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête. Le fait de faire un petit peu de sport tout le temps, tu sens, tu vois, t'es bien, t'es en bonne forme physique. Nous, en plus, au début, on n'était que deux, donc on lavait nous-mêmes les bagnoles. Hein. Donc, pareil, quand tu tapes 2 heures pour laver une caisse et que t'en enchaînes 3-4 d'affilée, tu fais aussi un peu ton sport. Tu te contorsionnes dans tous les sens, tu passes derrière le siège, le truc.
Tu vas chercher la petite pièce, le petit chewing-gum qui est tombé.
Tu vas tout faire, tu passes entre les jantes, les trucs. Donc, c'est aussi physique.
Et ton associé, à ce moment-là, il fait aussi un petit peu comme toi, tu l'entraînes dans les routines ou...
Bon, non, il a sa routine aussi, parce que lui, pareil, aussi ancien sportif de haut niveau, même d'accord, très haut niveau, j'ai envie de dire. Lui, en Suisse, il était en équipe nationale suisse de hockey sur glace, qui est le sport national là-bas. Donc, pareil, lui, sport de haut niveau, même franchement un cran au-dessus de moi de ce que j'étais à l'époque, hein, très clairement. Donc, lui aussi, il a sa petite routine. Il est sûr de lui, il est plus confiant que moi je pense sur pas mal de domaines et là-dessus du coup il est bien lui, donc non, moi je fais ça dans mon coin, lui il fait ça dans son coin. On sait que le sport c'était important pour nous deux, du coup lui il faisait le soir, moi je faisais le matin, et donc du coup bref, pour dire tout ça, donc c'est que bah voilà, on essaie d'avancer un peu sur le projet, moi j'essaie d'être le plus positif possible au quotidien, et puis en fait on se rencontre au fur et à mesure que on n'est peut-être pas suffisamment complémentaires, qu'on n'a peut-être pas forcément la même vision de l'entrepreneuriat et que voilà, cette boîte, on était content de la lancer au début et peut-être que bah, aujourd'hui, il faut peut-être se séparer, quoi. On se rend compte que l'association, elle bat un peu de l'aile.
Le duo est peut-être pas le bon tout de suite, quoi. Et il vaut mieux rester... vaut mieux arrêter avant que justement l'amitié.
C'est ça, avant que ça se fâche fort et tout. Moi, c'était pas le but, parce que c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur et qui est un super pote, vraiment, qui est toujours un super pote. Hein. C'est juste qu'on se voit beaucoup moins, du coup, maintenant, vu qu'on est loin. Mais le but, c'était de partir avant que vraiment une amitié se brise et qu'on aille trop loin et que moi aussi, finalement, tu sais, la boîte, on commence à se faire un nom, on commence à avoir des petits clients sympas, autant dans le B2B que dans le B2C, du coup là-bas, des gens qui avaient une certaine renommée, mais on n'arrivait pas à en vivre. Et donc, moi, j'étais déjà chez lui, on n'arrivait pas à sortir de salaire. Donc moi, en fait, j'étais aussi pris à la gorge financièrement. C'est ça aussi qui a fait que j'ai avancé mon départ. C'est que l'association, elle battait peut-être un peu de l'aile, mais moi, financièrement, je m'en sortais plus. Donc, il fallait que je parte, tout bêtement. Donc, on s'en arrêtait là.
Une bonne discussion et puis réalignement.
Ouais, voilà, c'est ça. Réalignement au bout de donc un peu plus d'un an de création de boîte. Et donc, moi, je décide de repartir un peu aux sources, de repartir à Paris.
La boîte, vous la fermez ou
en non fait, non je lui refile mes parts du coup je lui refile mes parts pour qu'il puisse continuer s'il a envie à côté de ça et moi du coup je repars du coup à Paris, je repars chez ma mère histoire de me ressourcer un peu tranquillou et de retrouver un taf. Donc cette fois-ci je me pose bien des questions, je me dis ok, qu'est-ce que je vais repartir dans le salariat, j'étais entrepreneur depuis un an. Il faut vraiment que je trouve un taf, ou en tout cas une boîte qui m'anime, tu vois. Une boîte qui a un vrai projet, avec des vraies valeurs.
Qui te fasse lever tous les matins.
Exactement. Je vais faire comme si c'était la mienne, en fait. Je vais faire comme si c'était la mienne de boîte. Donc, il faut vraiment que je sois aligné. et que je sais qu'aujourd'hui, le job que je veux faire, maintenant, il est beaucoup plus, justement, il est dans la vente, en fait. Ce qui me bottait le plus dans notre boîte, c'était développer des partenariats, aller chercher des clients, que ce soit B2B, B2C, automatiser de la génération de leads, etc. Ça, c'est ce qui me bottait. Donc, je me dis, OK, je veux faire ça. Donc, je pars sur un taf de business developer. Et je regarde un peu sur donc Welcome to the Jungle, qui est une super plateforme, ouais, clairement. Hein. Et je retiens vraiment que 3 boîtes. Je me dis, c'est hors de question que j'envoie 50 CV tous uniformes à tout le monde. Là, je vais faire des trucs hyper perso. Donc, j'avais retenu 3 boîtes à l'école, à l'époque, pardon, qui étaient donc Welcome to the Jungle. J'avais tellement découvert cette plateforme, je me dis, wow, c'est trop stylé, ils sont ouf ces mecs. J'avoue que ça me botte. Ils m'ont pas voulu de moi. J'ai retenu à l'époque...
À l'époque,
c'était il y a 2 ans et demi, et peut-être qu'aujourd'hui. Minute Buzz, parce que ça me faisait marrer. Je me dis, tiens, je les avais un peu suivis sur les réseaux. C'était drôle qu'une boîte comme ça aussi se mette 100% sur les réseaux à l'époque, et avait coupé son site internet. Bref, je me dis, tiens, ça pourrait être fun un peu. Pareil, pas voulu de moi. Et la dernière, mais tant mieux, parce que c'était mon chouchou, c'était WeYelp, du coup. Où en fait, j'avais lu le descriptif et en gros, ça disait aider en fait les personnes dépendantes, les personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Je me dis...
La mission est parfaite.
La mission, elle est ouf. Moi, en plus, je voulais repartir dans le social, en fait. Je voulais repartir idéalement dans le social parce que mon expérience des ONG à l'époque avait fait que j'avais trop kiffé. Je m'étais dit, je veux du social. Putain, c'est ouf parce que moi, j'ai encore mes 4 grands-parents aujourd'hui. Hein. Donc, une chance incroyable, vraiment.
Wow.
J'ai mes 4 grands-parents. J'ai été beaucoup élevé, du coup, par mes 2 grands-mères aussi. Et donc, je me dis, en fait, c'est évident que moi, je veux pas que mes grands-parents aillent en maison de retraite aujourd'hui. Certainement pas. Si je peux tout faire pour qu'ils y aillent pas, je le ferai, clairement. Donc, cette boîte, donc WeYelp, ça me parle. Et donc, je rentre en process donc, de recrutement avec eux.
Voilà. Mmh.
Et ça le fait. Pendant un mois et demi où j'étais du coup en process de recrutement avec eux, j'étais rebossé pour une boîte d'un pote, en fait la start-up d'un de mes potes, de 2 de mes potes du coup, Lenaïk et Michael, qui avait une boîte qui s'appelait donc du coup AllFit, et spécifiquement leur partie qui s'appelait Bonne Mine. Et en fait Bonne Mine, c'était du coaching sportif, du yoga, tout ce qui était bien-être en entreprise. Et moi je les avais un petit peu aidés, vu qu'ils étaient au départ de ce projet-là, à structurer un peu la partie commerciale, à mettre en place justement de la génération de leads, à automatiser des trucs sur LinkedIn, etc. Et donc, comme ça me permettait de ne pas être chez moi à rien foutre, à regarder la télé.
Ouais, ça, c'est impossible pour toi.
Impossible. Il fallait que je sois actif direct. J'avais passé plus d'un an sur le secteur d'activité, enfin en Suisse. Donc, il fallait que je me remette un peu aussi sur le marché français. Donc,
super.
Donc, je me mets direct en action. Je bosse avec eux bénévolement parce que ça me fait plaisir. C'est des potes, tu vois. Et puis, du coup, je rentre après un mois et demi avec WeYelp.
Super. Et du coup, à quelle fonction ? Alors, commercial, coup, développeur ?
Ouais. Du coup, j'arrive en tant que premier business développeur chez WeYelp. Moi, je rejoins la boîte. Il doit avoir quoi ? Une dizaine de CDI, quelques stagiaires, une présence sur Paris intramuros et la première couronne parisienne, donc le 92, 93, 94. Et avec comme objectif de développer la partie outbound, clairement. D'aller chercher du coup des clients, des partenaires, j'ai envie de dire, des professionnels médico-sociaux. Donc moi, en fait, je me lance sur un sujet là où je ne connais strictement rien. Je ne connais rien au médico-social, j'y connais que dalle, j'ai juste les crocs, j'ai juste envie de rejoindre un super projet et d'apprendre. Parce que en tant que sales, je sais que je peux vendre pas mal de choses si j'y crois, même tout, si à partir du moment où j'y crois.
Il faut juste que tu comprennes. Du coup, tu plonges dans la silver economy.
Exactement, je plonge là-dedans avec une forte envie d'apprendre et donc du coup, je suis hyper bien épaulé parce que les fondateurs et tous les gens d'ailleurs dans la boîte sont hyper bienveillants. C'est vraiment tous des pépites, vraiment. Victor Sebag, Pierre-Emmanuel Berceget et Bastien Gandouet, qui sont nos 3 fondateurs du coup de WeYelp, qui sont sans doute... Je le dis aujourd'hui, c'est pas parce que je suis chez WeYelp, hein, mais je le pense profondément. C'est sans doute les personnes les plus intelligentes que je connaisse. Mais vraiment, c'est des mecs, c'est des machines de guerre.
Ils sont des mentors incroyables.
C'est des ouf, franchement. Parce qu'on pourrait un peu stigmatiser ça, genre donc Victor et PE, Pierre Manuel. Donc, ils ont tous les deux bossé au BCG, au Boston Consulting Group, donc un des plus gros cabinets de conseil au monde, hein, clairement.
Un des Big Five.
Ouais, exactement. Et on pourrait un peu stigmatiser ça comme des gens, tu vois, qui n'ont pas d'âme, qui sont là pour mettre en place des process et ciao, bonsoir, tu vois. Et pas du tout. Pas du tout. C'est des mecs qui sont ultra humains, qui sont ultra bienveillants. Bon, c'est deux fils de médecins aussi, donc ils ont eu justement connaissance un peu de tout le problème qu'on pouvait rencontrer sur la silver economy et notamment sur l'aide à domicile. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont eu envie de créer ce projet. Et ça sent que ça les anime et qu'ils ont envie vraiment de disrupter le marché, tu vois, de mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière. Et ils le font avec beaucoup, beaucoup d'humanité. Je parle là d'un point de vue des salariés. Ils sont hyper proches. Moi, quand j'arrive, comme je t'ai dit, on est une douzaine. Et donc... ils sont hyper accessibles,
quoi.
Ouais, c'est ça, c'est la famille. Moi j'arrive, par contre je suis le chien fou, tu vois. Non, j'ai un peu le chien fou qui débarque. Les gens se disent, mais c'est
on
qui
va faire
ce
ça,
mec
on va faire ça, on va tester ça.
Ouais, bah, j'arrive avec beaucoup d'envie, puis surtout beaucoup d'énergie. Je pense que c'est ça aussi qui me caractérise aujourd'hui. Là je suis peut-être sur une voie très très posée derrière un micro, mais au quotidien je suis une pile électrique et j'essaie de diffuser la bonne humeur et l'énergie. Je dis beaucoup de conneries. Tu peux me voir faire une roue en plein milieu du bureau si je suis content, faire des pompes parce que je viens de signer un rendez-vous, je dis n'importe quoi, mais j'essaie d'apporter beaucoup de bonne humeur et eux ils s'y prennent au jeu et tout, et c'est super drôle. Et donc bref, ouais, on met en place des nouveaux process, on essaie d'aller chercher des nouveaux canaux. Et là, tu vois, on s'en parle, on est 2 ans et demi plus tard, donc de la douzaine de CDI aujourd'hui, on est plus de 90 et on est présent maintenant dans 15 villes de France. Donc, moi je rejoins la boîte, on est en hyper croissance, donc ça fait plaisir de fou. Une levée de fonds de 3 millions qui arrive le mois d'après où j'arrive. Et donc, une mise en place d'une expansion nationale.
Beaucoup d'impact. Une sacrée aventure, beaucoup d'impact et de sens pour toi. Et du coup, quel est le déclic parce que tu n'as pas besoin, on va dire, de il y a beaucoup de podcasteurs qui se lancent pour promouvoir un petit peu leur activité, promouvoir des projets. Quel est le déclic pour toi?
Pour le podcast?
Ouais.
Alors en fait... Quand j'étais en Suisse, du coup, avec Wash & Move, quand on fait un peu des événements de networking, etc., je rencontre un gars trop stylé, qui est d'ailleurs, du coup, l'épisode 1 de Phoenix, parce que c'est symbolique, on va le comprendre, qui s'appelle Réginald Bien-Aimé, qui est un très, très, très bon pote aujourd'hui, qui est un mec que j'adore, qui est une pépite, genre, tu peux pas trouver meilleur animateur que ce mec, c'est un ouf aussi, lui. Vraiment, et il anime, du coup, les Fuck Up Night en Suisse. Donc, les Fuck Up Night, en fait, c'est des événements sur l'échec. Donc en gros, il va aller chercher 3 intervenants de domaines totalement différents. Ces personnes-là, elles viennent pitcher pendant 10 minutes leur plus bel échec avec 10 slides derrière eux. Et les 10 slides, c'est que des photos, pas le droit au texte. Et je surkiffe le concept. Après, derrière, c'est donc du coup...
Super format.
Exactement. Le format est trop cool. Lui, il anime ça comme un ouf, comme un maître. Et... à la fin, du coup, c'est petit moment sympa, networking, chacun se rencontre, papote, il y a un petit buffet, etc. Et je trouvais ça ouf. Et du coup, je me suis vachement plus familiarisé avec l'échec. Justement, à ce moment-là, je me dis, c'est génial que les gens aient le courage de parler de ça. Moi aussi, je pense que j'aimerais bien parler d'échec. Et à un moment donné, je me tâte à reprendre aussi cette licence des Fuck Up Night à Paris.
Pour la France.
Exactement, c'est ça. Bref, je passe rapidement dessus. En gros, la licence, elle est déjà donnée à quelqu'un. Donc du coup, moi, ça me freine parce que j'ai pas envie de bosser avec le gars en question qui, soit dit en passant, fait pas grand-chose avec la licence depuis 3 ans. Donc je passe à côté et je me dis quelque part, c'est une bonne chose parce qu'en vrai, j'aime pas l'événementiel. J'avoue que c'est un truc qui me... Je suis assez anxieux de base. Ouais, c'est complexe et ça me met trop de pression, en fait, l'événementiel. Je suis admiratif de ceux qui font ça bien.
Ton intuition a payé en 2020.
Exactement. Non, mais tu vois, du coup,
courage,
je me dis, ok, je mets ça de côté, mais en tout cas, l'échec, c'est vraiment un domaine, enfin, ouais, une thématique que
un
j'ai envie
sujet.
D'aborder. Et
okay.
Donc, du coup, fin d'année dernière, fin 2019, ça me taraude un peu, et je me dis, écoute, ouais, pourquoi pas un podcast, en fait, parce que le podcast, ça me demande pas trop d'investissement, c'est pas si compliqué que ça du coup à diffuser, enregistrer. Enfin, en tout cas, c'est moins galère que l'événementiel. Et je me dis, allez, vas-y, je lance un podcast. Et je me
t'en écoutes, t'en écoutes à ce moment-là.
J'écoute un petit peu, pas des masses en réalité. Il y a deux podcasts que j'écoute et qui me donnent justement envie, en fait, j'avoue clairement, de lancer le podcast. C'est un podcast qui n'existe plus qui s'appelle Nouvelle École.
Ouais.
Donc lui, c'était
Antonin.
Antonin pépite, franchement.
Antonin,
le gars,
il a arrêté à l'apogée.
Ah ouais, il a tout compris.
de son projet, mais on est tellement frustrés. Parce qu'il avait un super format démarré en 2016, et effectivement.
C'est ouf. Ouais, super format. Le gars, il a compris
vraiment
qu'il fallait s'arrêter au top, quoi, tu vois. J'espère que Roger fera pareil, mais non, je rigole. Mais non, mais du coup, franchement, lui, c'est juste génial. Ouais. J'adore son format, j'adore le ton, les invités. Enfin, j'écoute ça vraiment, je dévore ses podcasts. Et un autre qui est un peu plus pro, parce qu'il est un peu en lien justement avec mon nouveau taf et ce sur quoi je veux développer, et c'est Grossmakers.
Ouais.
Donc lui, pareil, hein, gros podcast, franchement, rien à dire. Beaucoup plus pro, du coup, je trouve, à ce niveau-là.
Gabriel Gorovitch,
ouais. Gabriel Gorovitch, franchement, super solide. Et puis bah, là, ça fait
Pépite
qu'évoluer
hein,
depuis. Hein, il fait des formations et tout. Enfin, il arrive vachement bien à développer grâce à ça. Et c'est vraiment mérité parce qu'il fait vraiment un taf de ouf, encore une fois.
Et il bosse en famille avec son frère.
Ouais, il bosse avec son frère. C'est trop stylé en plus de ça. C'est génial, franchement, ce qu'ils font, les gars. Et bref, en tout cas, voilà, c'est les deux podcasts qui me donnent un point de me lancer.
Super.
Ouais, je me dis, allez, vas-y. Bah, encore une fois, comme je m'étais dit avec la boîte, au pire, je me plante, tu vois. Et puis au pire, bah voilà, j'arrête, quoi.
Et donc, comment tu fais pour le matos? Est-ce que tu réfléchis un petit peu quand même à la ligne édito? Explique-nous un petit peu la genèse.
Alors du coup, pour le matos... Alors moi, je profite, c'était fin d'année dernière, donc c'était de, je sais pas, fin novembre, je sais plus ce que c'est la date. Il y a le Black Friday, tu sais, le vendredi là où tout est un peu moins cher.
Ah oui.
Et du coup, je profite de ce jour-là. Je me rappelle, j'étais en déplacement pro, j'étais à Montpellier à ce moment-là. J'étais dans la chambre d'hôtel et j'étais en train de tout checker pour acheter le soir, donc pour acheter le matos. Et en fait, je me faisais aider par des potes qui bossent en régie, qui s'y connaissent un petit peu, donc qui m'ont dit tiens, avec ce matos là tu seras bien. Je regarde aussi beaucoup de vidéos justement de podcasteurs, notamment elle avait fait une super vidéo, Pauline Léniaud, qui est aussi elle avec le gratin, ouais, quand même une référence, hein, clairement sur le monde du podcast. Et donc je vois une vidéo avec un petit enregistreur, je regarde quelques micros, et le soir bah, je profite de ça parce que ça me coûte moins cher. Et c'est parti, et je me fous dos au mur en me disant, vas-y, je dépense 400 balles, j'achète un Zoom H5, parce que du coup, vu que je veux avoir au moins, j'ai toujours une personne invitée, bah, j'achète deux micros, un Zoom H5, pour avoir deux entrées en XLR, et puis on est parti, quoi, deux micros mains.
Et les micros
c'est des micros mains, je sais même plus, attends...
Du SM58.
Ouais, c'est un truc, ça coûte 80 balles le micro, quoi. Je sais même plus ce que c'est, très honnêtement, le truc un peu classique, tu vois, sur Amazon. 80 balles ton micro, 220 balles parce qu'il est en promo, le H5. Et voilà, un vieux casque AKG, juste fermé pour avoir le retour du son. Et puis on est parti, donc je me fous dos au mur, je me dis, vas-y, maintenant que t'as dépensé 400 balles, poteau, bah faut y aller, quoi. Faut y aller.
Et comment tu trouves donc le nom, un petit peu la ligne, l'angle et les invités? Parce que du coup, tu pars sur un format interview, conversation.
Ouais, alors bah, je t'avoue que pour la ligne édito, je teste en fait, j'ai écrit quelques noms, j'ai écrit différents noms, Phoenix tout court, j'avais l'échec mention très bien, j'avais, je saurais même plus dire, j'en avais en gros 5-6 et j'ai fait un petit typeform. Genre un typeform avec justement quelques questions sur... Enfin non, juste le titre en fait, excuse-moi. Je fais juste un typeform avec mon titre. Et je le balance à une centaine de personnes autour de moi, que des proches, en disant tiens, s'il te plaît, j'ai envie de lancer un podcast. Est-ce que tu peux répondre? Il y a une question. Genre, dis-moi ce que t'en penses, tu vois. Et donc j'ai les votes. Et ce qui ressort le plus, c'est Phoenix et l'échec mention très bien. Et je me dis, bah, tu sais quoi, vas-y, je vais coupler les deux en fait. L'échec mention très bien, c'est cool parce que c'est les deux que je préférais en plus au niveau des titres que j'avais trouvé. Et donc je me dis, bah écoute, ça part, ça c'est génial. Bah,
Tu as en fait le titre et la baseline.
Et la baseline, exactement. C'est exactement ça.
Tout de suite.
Donc j'ai les deux, ça part tout de suite. Et j'ai mon pote Michael Saifuddin, donc avec qui j'avais bossé sur Bonne Mine, dont je parlerai aussi dans notre projet qu'on est en train de monter depuis le Covid, qui lui est un mutant sur tout ce qui est création de logo, création de site. Enfin, il est product manager, enfin product designer, mais ce mec-là, c'est une pépite. Il est surintelligent, Mike. Et du coup, en 2-2, il me pond un logo. Il me pond le logo de Phoenix, genre en 5 minutes. Et je fais une après-midi chez lui à un moment donné. Et pareil, on se fait un petit WordPress. Et j'ai un petit site vitrine en une après-midi avec les bonnes couleurs, les trucs, les quelques templates si je veux faire des visuels ou quoi. Et donc, du coup, pareil, tu vois, là, je suis armé en fait. Donc, j'ai rien écrit, j'ai juste, bon, pour l'instant, donc j'ai mon matos, j'ai mon titre, ma baseline, mon site. Mais j'ai toujours pas de contenu, quoi, tu vois. J'ai pas vraiment le descriptif, j'ai pas d'invité. Et je me dis, bon, j'aimerais bien quand même lancer ça début janvier, quoi. Enfin, mi-janvier, fin janvier max, quoi, au plus tard. Et donc, je me pose et je commence un peu à gratter. Je me dis, vas-y, déjà, il faut que je prépare une intro. Il faut que je prépare une outro. Donc, j'écris un petit truc, tu vois, de 45 secondes, une minute. Et j'écris un épisode zéro. Voilà, hein, sur un Word classique.
Bande-annonce, teaser.
Voilà, exactement. Je pars sur ces trois formats-là, avec ce qui me parle, en tout cas au début, ce pourquoi j'ai envie de créer Phoenix. Et il manque du coup maintenant une petite musique, quoi. Il me manque un petit truc sympa pour l'intro, pour l'outro, peut-être pour l'épisode zéro. Après, je sais que
l'identité
je ne veux pas mettre
sonore.
De musique. Exactement, il me manque ça. Je ne veux pas mettre de musique, bien sûr, pendant les épisodes, mais juste au début, à la fin. Mm-hmm. Et j'ai un autre pote, du coup, comme quoi, le réseau... Merci.
Toujours. J'entourage.
J'ai mon pote William Rousselier avec son nom de scène qui s'appelle W. Allez l'écouter aussi. Très sympa ce mec. Et William, un amour pareil. On passe une après-midi chez lui. Et en fait, lui, il utilise Audacity, donc qui est un logiciel de montage pour le podcast. Il utilise Audacity
gratuit.
Parce que lui, il fait gratuit, exactement. Parce que lui, il fait de la musique, mais genre, il crée tout de A à Z, en fait. Il rappe, il crée toute sa zig de A à Z et il le fait sur Audacity. Il me dit, bah écoute, viens, comme ça, je te montre un peu les petits trucs de base pour que tu puisses après te démerder tout seul à faire ton montage. Et il me file une de ses musiques. Donc, la musique de Phoenix, pour l'intro, l'outro, c'est une des musiques qu'il a créées. Il me dit, tiens, choisis, j'en ai deux, trois. Je dis, putain, celle-là, elle est trop bien. Il me dit, allez, vas-y. Et donc, la première fois, c'est lui qui me fait le montage de l'intro, de l'outro, pour que ça colle parfait avec la musique, et l'épisode zéro. Et donc, je pars de chez lui, j'ai tout, quoi. J'ai tout, j'ai mon intro, j'ai mon outro qui est nickel, j'ai mon épisode zéro. Je lui fais un gros câlin, je lui paye un resto, évidemment. Et puis, je me dis, bon, vas-y, parfait, maintenant, faut que j'invite des gens. Il faut que j'invite des gens, il faut que j'enregistre. Donc, forcément, mon premier choix se tourne vers Réginald, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que c'est un peu de lui, comme je disais, que tout se décante et que j'ai envie de parler d'échec. Donc, il fallait que ce mec-là, il soit pour moi symboliquement l'épisode 1. Donc, il est en Suisse, Reg, bien évidemment, il me dit oui, avec le plus grand plaisir. Donc, on enregistre à distance, et là, j'avoue que... Oh là là! C'était dur.
Galère.
Oh, c'était dur. Parce que je sais pas du coup dans quoi je m'embarque. J'ai pas préparé grand chose. Tu vois, je prépare quelques questions. J'ai jamais fait ça de ma vie.
Et du coup, tu te lances sur comment tu fais ça sur Skype?
Bah, ça, on l'enregistre à distance. Ouais, en fait, on se fait un Zencaster. Je regarde un peu ce qui se fait. Et donc, du coup,
déjà,
je vois
Zencaster. Okay. Super.
Ouais, déjà Zencaster au début d'année, donc je me dis cool, je lui envoie le lien, je dis t'inquiète poto, tu te connectes là-dessus, tu vois, ça va se faire hyper facilement, je vais avoir ta piste audio, la mienne distincte, ça va être très facile. Je lui demande s'il peut, parce que lui il a quand même un peu de matos vu qu'il fait pas mal d'événements, s'il peut avoir un micro pour que ce soit un peu plus qualitatif en termes de son, et malheureusement il n'arrive pas à mettre la main dessus, donc bon, on fait le truc, lui il a des oreillettes d'iPhone, moi je branche mon micro comme j'ai là... mon micro main là sur l'ordi en USB et c'est la cata. C'est la cata parce que j'ai pas prévu en fait, je suis con moi aussi, tu vois, genre je me lance ça, j'ai même pas fait des tests avant, je me dis ouais trop bien, je branche l'USB sur le son, enfin sur l'ordi et ça va être nickel. Mon son il est dégueulasse, vous pourrez écouter mon épisode 1, c'est horrible. Le son que j'ai l'impression d'être loin, c'est atroce.
Donc tu gardes quand même les deux fichiers. Et du coup, tu rames un max pour monter un minimum.
Ah ouais. Ouais, je rame. William m'avait aidé donc un peu du coup sur... Ouais, encore une fois, il m'avait donné 2-3 tips pour le montage, pour le son, la compression, les trucs et tout. Mais en fait, le truc, c'est que les micros qu'on a, c'est de la merde en fait. Enfin, en tout cas, moi, mon micro, il n'est pas du tout bien réglé. Donc moi, mon son... Mais à la rigueur, on ne m'entend pas trop. Donc je me dis, bon, c'est pas grave. Moi, ma voix, c'est de la merde, mais c'est le premier. Et c'est pas grave, je vais trouver une solution. Ce qui est plus embêtant, c'est pour Reginald, parce que lui, il a ses oreillettes. Et parfois, pareil, on l'entend très, très mal. Et je me vois pas du tout lui dire, gros, est-ce qu'on peut refaire l'épisode, tu vois? Ouais. Donc je me dis, écoute, tant pis, ce sera le premier. Quelque part, ça va bien avec le podcast parce qu'on est sur un bel échec pour commencer l'épisode 1.
Vous êtes dans le thème direct.
Je me suis bien foiré, exactement. Et je me dis, écoute, tant pis, c'est rigolo. Les gens, ils vont quand même entendre un minimum. Ce qui compte, c'est que l'histoire, elle est stylée parce que ce que dit Reg, c'est quand même vraiment cool. Donc je me dis, tant pis, je le monte. Et puis on verra bien, quoi. On verra bien, je vais essayer de me retravailler le prochain.
Moi, tu vois, le premier épisode d'Aventure Humaine, on l'a refait. On travaille déjà avec Gilles, notre monteur. Et en gros, il m'a dit non, mais moi, je peux pas valider ça. Et du coup, on l'a refait 3 mois après. Voilà.
Ah ouais. Moi, je t'avoue que j'étais un peu pris par le... En fait, je me suis mis la pression, tu vois, quand je te dis, je me fous de Omir. En fait, je me fous de Omir, bah ouais. Comme avec le... Mais en fait, c'est que je l'avais annoncé. J'avais commencé à lancer...
hop, la sinon, pression c'est pas drôle. Et hop, quoi.
Je m'étais annoncé, je m'étais foutu une pression de ouf. J'achète le matos et puis à un moment donné, je dis, sortie de l'épisode, telle date. Et j'ai pas encore enregistré avec l'invité, j'ai rien fait encore et je me dis, putain, mais dans quoi tu t'es lancé?
Et puis à Noël,
c'est une date, faut que tu la tiennes
à Noël
maintenant.
Et au premier de l'an avec les copains, la famille, tout ça. Je suis podcasteur.
Ouais, t'inquiète, j'ai ça, je vais lancer ça et tout, c'est trop bien. Et j'en parle et les gens, j'avoue que quand j'en parle justement en soirée et tout, ils me disent, putain, c'est trop bien, c'est trop cool la thématique, génial, j'adore, putain, mais trop hâte d'écouter et tout. Donc je me dis, putain, c'est cool,
bien
je
aussi,
tiens
ça.
Un truc. Je me dis, je me conforte, tu vois, dans l'idée, je me dis, ok, c'est cool, les gens, ils adhèrent quand je les pitch là, quand je pitch le projet, ils kiffent. Donc je me dis, ça déjà, c'est vachement cool. Et donc, bah voilà, je me lance et puis petit à petit, j'essaie de faire appel dans un premier temps parce que c'est plus facile et que je dois tenir un rythme. Moi, je m'impose aussi un rythme de me dire, toutes les 2 semaines, je sors un épisode. Je peux pas faire plus parce que ça demande un travail de mutant de sortir un épisode toutes les semaines. J'ai personne qui m'aide, je fais tout seul, hein, tout le montage, tout le contenu, tous les trucs dont on va pouvoir parler après. Mais donc, ça me prend du temps, j'ai un taf à côté, donc je peux pas.
Donc, tu pars sur tous les 15 jours.
Exactement, je me dis, tous les 15 jours je sors, tous les lundis ou tous les mardis, je sors un épisode. Donc bah maintenant que j'ai sorti le premier,
t'as que 15 jours.
Le deuxième, quoi. Il faut que je sorte le deuxième, putain. Donc du coup, je fais un peu appel à mon réseau, à des gens inspirants, parce que avec le temps, je commence à avoir un petit réseau sympathique, des gens un peu d'horizons de divers et variés, de tout âge, et je me dis, j'ai des gens qui ont des histoires de ouf en fait autour de moi, donc je vais un peu commencer par eux. Et donc, épisode 2, Marie-Victoire Das, Vicky Das, une pote, dis-toi, on se connaît depuis le collège carrément. Donc, on s'est perdu de vue par moment, mais on se connaît grosso merdo depuis qu'on a 12-13 ans, quoi. Donc, c'est assez drôle. Et donc, bien évidemment, elle accepte. Nana ultra dynamique, ultra pétillante, qui a vécu un truc de ouf à l'époque, donc chez Facebook. Où je sais que du coup, ça avait été très dur pour elle. Et je me dis, tiens, c'est ouf, est-ce que tu acceptes de venir en parler?
Allez.
Elle me dit, ouais. Et donc, trop bien, quoi. Donc, je continue d'être en flux tendu.
Oui.
Hein. Je vais la rencontrer à son taf. On se met dans une petite salle. Là, je me dis, bon, cette fois-ci, ok, je veux pas que le son, ce soit de la merde. Donc, alors, j'essaie de préparer un peu plus le truc. Je lui file un micro à moi. On est posé, on est dans une super belle petite salle. Pas trop d'écho et tout. Et on commence à enregistrer. Et en fait, j'entendais le son au fur et à mesure. Du coup, je me dis, tiens, c'est cool. Ce qu'elle dit, c'est punchy, c'est ouf. J'adore ce qu'elle raconte. Le son, il a l'air d'être quali. Ouais, c'est gagné. J'envoie une voice note à mes potes sur WhatsApp. Putain, j'ai enregistré Vicky. C'était ouf. Le son, il va être ouf. Là, c'est bon. Ça commence à partir. Le mec est trop saucé. Il se fait des... il monte à 10 000. Tu sais, il monte à 10 000 d'un coup. Et 2 jours après, je commence à me faire le montage et je fais, oh putain. Elle avait son pied qui n'arrêtait pas de bouger, en fait, devant, avec la petite table.
Ah ouais,
oh là
sur
là.
La table.
Et ça faisait tac, 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 tac. Et je me dis, putain, c'est con, comment je vais faire pour rattraper ça? Et tant bien que mal, j'essaie, donc je fais je coupe un peu, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au début sur le montage, parce que j'ai jamais fait ça. Et donc, j'essaie de retirer les « j'essaie de retirer un peu tous les trucs, parce qu'avant, elle me fait beaucoup des « comme j'ai, ça se trouve, je le fais déjà là aussi, moi. Mmh. On s'en rend pas compte quand on parle, mais on fait beaucoup, soit des petits trucs de respiration, les « et c'est des trucs que tu sens pas. Et donc, j'essaie de tout couper. Je passe genre 5 heures de montage, je pense au moins, à faire cet épisode. Ça me prend toute la nuit. C'est pareil, j'étais en déplacement pro, j'étais à Toulouse cette fois-ci, dans ma chambre d'hôtel. Je passe toute la nuit à monter ça.
Pour sortir le lendemain direct.
Pour sortir, bah en fait pour me préparer, parce que j'étais en déplacement pro, je sais pas, un jeudi soir, j'avais des trucs à faire le week-end, je me dis vas-y, il faut que je le monte maintenant parce que ce week-end je vais être niqué et il faut que je sorte à tout prix l'épisode le lundi quoi. donc j'y passe beaucoup de temps et gros succès, Vicky elle a trop kiffé, beaucoup de gens reviennent vers elle. Elle m'envoie des messages tout le temps, elle me dit tain, j'ai trop de gens qui me contactent parce qu'ils ont écouté l'épisode et tout. Je dis je suis trop content, ça me fait trop plaisir, et pour elle et pour moi en fait. Je me dis tain, c'est génial, parce que de toute façon ce qu'elle dit c'est ouf, encore une fois, pour une meuf de 25 ans elle te botte le cul quoi dans son épisode, et c'est tout ce que je veux. Je me dis tiens, c'est cool, je commence à tenir un filon quoi.
Et on a oublié de parler technique, il faut un hébergeur quand on a un podcast.
Ouais, bien vu.
Comment tu gères ça?
Alors au début, je regarde un peu ce qui se fait, hein, je tape sur Google, hébergeur de podcast et tout, et je tombe sur Anchor. L'hébergeur Ricain, gratuit.
Ouais.
Donc je me dis, écoute, je passe par ça, et puis on verra bien. Donc je commence à passer par eux et je vois, pareil, tu vois, je commence à faire ça. C'était quoi? C'était donc début mi-janvier. Je me dis cool, vas-y, c'est bon, maintenant que j'ai tous les trucs, je lance l'hébergeur. Je rappelle que j'ai une date de lancement la fin janvier. Et là, je vois au bout d'une semaine que je suis pas sur Spotify, je suis pas sur Apple Podcasts, ça met du temps. Et je suis là, je dis putain, je vais jamais être hébergé sur les bons trucs. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je commence un peu à flipper. J'essaie de les avoir, j'envoie plein de mails et tout pour comprendre pourquoi est-ce que ça va pas aussi vite, pourquoi je suis pas sur Apple Podcasts et tout. Et ils me disent que ça prend du temps, surtout à cette période de l'année où apparemment Apple est encore plus restrictif, je sais pas quoi, machin. Tu te dis, oh putain,
ouais.
ils vont m'accepter dans un mois, je vais être niqué sur ma date et tout.
Il faut rappeler un petit peu aux gens qu'effectivement, Apple, quand il est en mise à jour, il abaisse, il accepte un petit peu moins de podcasts. Et c'est surtout que sur Apple notamment, podcasts, il faut 3... épisodes minimum pour pousser son flux RSS qui lui est hébergé chez l'hébergeur et du coup il y a un petit laps de temps quand même pour valider tout ça, et au début on est paniqué, on ne sait pas s'il en faut un, s'il en faut deux, s'il en faut trois, on ne sait pas s'il faut les publier ou juste les programmer, on ne sait rien et c'est très compliqué. Quand l'hébergeur ne t'accompagne pas, c'est très compliqué de faire ça tout seul dans son coin.
Et je t'avoue qu'en plus, au début d'année, donc c'était là, début 2020, enfin, le podcast, ouais, ça commence à monter, mais Apple Podcast, ils n'ont pas de service dédié pour le podcast, en fait. Enfin, Apple n'a pas de service dédié vraiment encore pour le podcast. Donc moi, je cherche sur tout le site Apple, je retourne tout, j'envoie des mails à des carrément, je trouve le moindre truc à des développeurs Apple. Le mec, il me dit, mais... je comprends pas ce que vous me demandez. Et du coup, j'essaie d'avoir des mecs au téléphone. Je dis non, mais là, en fait, je t'explique. Il faut que je lance mon podcast.
Je l'ai annoncé à ma maman.
Je sais pas où ça en est. Et en fait, il me pose plein de questions. Je sens que le gars à l'autre bout, il est hyper cool au téléphone. Il me dit, alors attends, en fait, c'est ça que vous voulez? Ok, parce que en fait, je comprends pas bien. C'est ça que vous êtes pas au bon service. Il dit, en fait, il y a pas de service chez vous, mais aide-moi. Et du coup, bref, en fait, le truc passe. Et que je me rappelle bien, en fait, j'ai switché justement. J'avais tellement peur que encore, parce que j'avais lu des trucs comme quoi, avec encore, c'est galère d'être hébergé rapidement sur Apple Podcast ou sur Spotify, je ne sais plus l'un des deux. Et donc, du coup, je vois l'hébergeur français Ocha.
Ouais.
Et du coup, je switch en fait. Je switch, super. Je change mon flux RSS
avant
tout.
Avant même le premier, ouais. Quoi. Et avant là, même tu le découvres premier... une bonne équipe, soutien,
c'est
et
ça.
Puis
hyper simple.
Et puis il y a plein de ressources.
Je paye 10 balles par mois pour le ouais. truc un peu basique, mais je me dis vas-y, tant pis. Genre, je paye 10 balles par mois, ça me fait plaisir. C'est un petit projet quand même dans lequel j'ai envie de me lancer. Je mets un peu les moyens. Je paye 10 balles par mois si j'ai envie que ce soit fait proprement et rapidement. Donc du coup, bah, je change de flux, enfin je change d'hébergeur et je vais chez Ocha et j'y suis toujours. Et ça se passe très bien pour ce que j'ai envie de faire. Ils ont le petit truc en plus qui fait que si je bascule chez eux, c'est le petit montage de clips vidéo très facile en fait pour chaque épisode. Bon, t'es un peu, si les gars ils m'écoutent, t'es un peu...
Je leur ai déjà dit aussi.
Avec la photo, c'est chiant, tu peux pas changer d'image, tu peux rien faire, t'as juste ta cover avec ta pauvre barre tout le temps, donc c'est hyper simple, mais si on pouvait au moins changer juste l'image...
En fait, on avait le hack d'en créer un et de le supprimer après pour en refaire un deuxième, et que ça, c'était pourri, quoi. Mais ils sont sur la feature, t'inquiète.
Ouais, ils sont sur ça, ouais. Après, sinon, t'as d'autres trucs aussi gratuits, genre... je n'ai plus d'ailleurs le nom parce que du coup je l'utilise plus
Headliner.
Trop maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. Headliner. Et moi, sinon, j'ai un petit truc maintenant que je fais pour mes montages de clips. Bah, c'est qu'en fait, je le commence sur Aosha parce que ça me prend vite mes 30 secondes dont j'ai envie. Et puis après, je me fais un petit montage avec soit vide.io ou soit PlayPlay. PlayPlay, ouais. Qui est une super boîte aussi de montage vidéo.
On a les mêmes ressources et les mêmes outils.
C'est ça, tu vois. Tu fais un peu ta sauce, tu fais un peu ta mayonnaise, tu dis vas-y, je prends un peu de PlayPlay, un peu de ça, hop, ça me sort un petit truc marrant de 30 secondes. Et puis ça fait le taf, quoi, puisque j'essaie de sortir un mini-clip par épisode, donc c'est pas non plus, tu vois.
Ok.
C'est pas non plus ouf.
Et ça, dès le début, tu t'es mis en mode animation du coup de la communauté, animation ouais. Est-ce que tu t'es mis tout de suite en mode ok, j'ai passé 50% de mon temps à produire cet épisode, maintenant il y a aussi la deuxième partie, 50% de mon temps pour animer, partager, propulser l'épisode?
Exactement, en fait dès le début, et je pense que ça c'est un tic que j'ai par rapport à mon taf en fait, vu que je suis sales hein, ben, en fait direct je suis organisé et je me dis ok, maintenant, mon épisode, je le sors, donc je crée une page Insta, j'ai mon compte perso LinkedIn, je vois pas trop, je crée un compte Twitter, mais j'y vais jamais. En gros, quand je publie sur Insta, je coche la case Twitter et je coche la case Facebook aussi, mais globalement, Facebook et Twitter, je les anime pas trop, enfin, avec Instagram. Mais je me dis, ok, faut que je crée du contenu sur Insta, il faut que je crée du contenu sur LinkedIn. Et donc, en fait, je me fais mon calendrier, et donc, dans mon agenda, bah, je sais que tous les lundis, j'ai mon post indice, qui va précéder ma sortie du mardi. Donc j'ai un post Insta indice le lundi, celui-là il est calé dans mon agenda. Le mardi je sors l'épisode, donc j'ai la description avec la cover sur Insta, un post sur LinkedIn aussi pour annoncer que le truc est sorti. Le mercredi, ça je l'ai rajouté depuis quelques temps, j'ai un post sur les punchlines, parce que mes invités ils ont toujours des phrases de ouf, donc je veux en ressortir ça. Le mercredi c'est punchline, le jeudi c'est un post citation d'une personne connue, pareil pour animer sur Insta. J'essaie de temps en temps, je fais un post aussi LinkedIn, j'essaie d'en faire un à deux par semaine. Avec le temps, je me rends compte que deux, c'est peut-être un peu trop pour un peu la même chose. Donc, je passe peut-être à un. J'ai un post sur les vertus, j'ai un clip vidéo. Et donc, en fait, ma semaine, elle est programmée tout le temps.
Et donc, quasiment tous les jours, tu balances, tu animes, tu as du teaser, tu as le moment de la diffusion le jour J, et après tu as pour animer cette période de 24-48 heures que les algos sont assez friands et assez attentifs sur les plateformes d'écoute, tu repartages et tu dis coco, voilà, la punchline il faut que tu l'écoutes, les vertus il faut que tu approfondisses, bim bam boum.
Ouais. En fait, du coup, j'essaie de me dire qu'en moyenne, au moins 3-4 fois par semaine, j'essaie de faire un post, notamment sur Insta et un post sur LinkedIn. Et donc, du coup, c'est ce qui me fait tenir les deux semaines entre chaque épisode, tu vois. Donc,
et ça marche très, très bien.
Bah, j'essaye. Après, mon compte Insta, c'est pas ouf, hein, parce que j'ai un autre compte Insta dont j'ai pas trop envie de parler ici, mais parce qu'il est un peu secret, celui-là. Il marche beaucoup mieux. Celui-là, j'arrive pas à faire monter le nombre d'abonnés, hein, pour être très franc, malgré tout le contenu que je fais. Donc, c'est parfois un peu frustrant. Tu dis, putain, qu'est-ce que je me fais chier, en fait, à faire tout ce contenu, à être hyper rigoureux, etc., pour avoir aujourd'hui, à date, alors que ça fait depuis, t'imagines, depuis, je te dis, février, j'ai même pas 350 abonnés sur Insta, hein, clairement. Donc, c'est dur.
Ouais, mais t'es parti de zéro, et puis, c'est encore très niché. En termes d'écoute, quand même, c'est cool. Est-ce que tu t'es imaginé dans une pièce, enfin, dans un stade peut-être,
avec 300 personnes
qui t'écoutent? Non, ça c'est sur Insta. Ou en termes d'écoute, si t'as 1000 écoutes, ça fait 1000 personnes qui t'ont entendu dans les oreilles.
Ouais. Ouais, c'est énorme en vrai. Non, mais clairement, en fait, ça c'est top que tu parles de ça, parce que du coup, juste avant le confinement, enfin, le confinement a aidé à ce niveau-là. En fait, je comprends que je m'en fous des écoutes. Au début, j'étais vachement, vachement axé sur ça, parce que tu te lances, donc du coup, t'as sur Aosha, du coup, t'as tes écoutes à chaque fois. Tu dis, attends, putain, là, j'ai fait X, il faut que je fasse plus à chaque fois. Et donc, tu te mets un peu une pression. Et à un moment donné, je me dis, tiens, c'est con, parce que je me mets trop de pression pour un side project qui, à la base, c'est que pour le fun que je fais ça, que pour le kiff. Moi, il faut le savoir, j'ai aucune prétention à faire de l'argent avec Phoenix. Hein. Si un jour j'en fais, c'est qu'il y a une opportunité. Mais moi, c'est pas pour ça que je le fais à la base, mais alors pas du tout. C'est vraiment juste un petit projet à côté qui me permet de rencontrer des belles personnes que j'aurais pas forcément l'opportunité de rencontrer, de parler d'un super sujet et moi, me faire kiffer avant tout.
C'est une super excuse.
Et ça, du coup, je le comprends.
Pour aller approcher n'importe qui sur LinkedIn.
Mais de ouf. Et je vous annonce, hein, la saison 2, la saison 3, là, on est en train de passer un stade. Hein. Là, j'ai des gens, il y a plein de gens même qui viennent d'eux-mêmes. Ça me rend ouf depuis cet été.
Ça,
j'ai plein
bien.
De gens qui me contactent pas plus tard qu'hier soir sur LinkedIn. Un mec qui me raconte qu'il a fait la traversée de la Manche à la nage en maillot de bain et qui veut me parler. Genre, c'est ouf. Non, mais c'est ouf, tu te rends compte? Je me dis, j'ai trop de chance que ces mecs-là, ils s'intéressent et qu'ils veulent passer sur le podcast.
Je crois que je le suis sur Insta.
Tu le suis?
Ouais.
Non, mais c'est ouf. Tu vois, j'ai des gens qui viennent d'eux-mêmes me proposer. J'envoie un message sur LinkedIn en leur demandant « ça te chauffe de passer ?» Les mecs, ils me disent oui.
Bien sûr.
Enfin, franchement, je développe trop de gratitude grâce à ça et ça fait trop plaisir. Et donc, bref, en tout cas, avec le confinement, je me dis, c'est génial, il faut que je me recentre et je m'en fous des écoutes. Et c'est vraiment un plaisir avant tout. Et donc, je repense un petit peu ma façon de voir les choses. Je me dis aussi qu'à la base, moi, Phoenix, c'était 50 épisodes. Dans ma tête, je me dis, je fais 50 épisodes et on verra. Parce que peut-être que d'ici là, j'aurai envie de faire aussi autre chose. Peut-être que le podcast, ça me fera plus marrer. Mais je me dis, mon objectif, c'est de faire 50 épisodes. Donc, avec des saisons qui évoluent quand même plus ou moins. Toujours bien sûr avec cette thématique. Et on fera les comptes au bout de 50. Est-ce que j'ai encore envie de continuer? Est-ce que les gens ont envie que je continue aussi? Est-ce qu'il y a un engouement? Ou est-ce que je passe à autre chose? Et merci pour tout, parce que ce sera une expérience et un petit projet de ouf que j'aurais pu vivre.
C'est intéressant ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se chauffent. Alors, il y a beaucoup de podcasts qui ont 2, 3, 4, 5 épisodes et après, il n'y a plus rien, walou. Mais il y en a beaucoup qui se chauffent et qui disent « Allez, je fais un petit bilan à 10 épisodes. » Et toi, tout de suite, quand même, tu te mets la vision…
Je me mets une bonne barre, ouais.
Ouais, tu te mets la barre à 50.
Ouais.
Bon, c'est sûr que tu as le matos, tout ça. Tu as peut-être déjà un petit peu validé quand même que ça te fait kiffer, que c'est OK. Mais quand même, tu te dis « Allez, tu vas… » Au 50.
Ouais, c'est un chiffre rond qui me fait marrer, 50. Je sais pas trop pourquoi 50, je te dis juste parce que c'est rond, c'est bien, on verra.
Okay.
10, je les ai passés là avant les vacances, et j'ai fait un petit bilan justement de où j'en suis après 10 épisodes. Donc un peu ce qu'on se dit là, mais en beaucoup, 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 beaucoup plus condensé, hein, vu que ça dure qu'un quart d'heure. mais du coup, non, c'est... Ouais, 50, ça me fait marrer, quoi. Ça me fait marrer. Le confinement m'a beaucoup aidé, je t'ai dit, dans la réflexion, franchement, à ce niveau-là. J'ai eu des doutes, hein, pendant le confinement, parce que les écoutes de podcasts se sont pété la gueule, mais comme jamais. Parce que, on le voit, hein, la majorité des écoutes, elle se fait entre 7h et 9h le matin quand les gens y vont au taf, et entre 17h et 19h quand les gens y rentrent du taf. Quand ils sont dans les transports en commun ou dans les voitures. Donc,
ouais. Transports en commun, banlieue, centre-ville, centre-ville, banlieue.
Les gens dans les bagnoles.
Même si l'usage... on peut penser et l'usage va certainement se démocratiser avec les enceintes connectées à la maison, en faisant du sport ou les tâches ménagères. Moi, j'écoute tout le temps des podcasts. Mais je suis un petit peu trop addict et un petit peu trop dedans, justement. Ok, effectivement, pendant le confinement. Et pourtant, toi, t'as des épisodes courts. Donc, ouais. c'est une chance.
Ça, pareil, du coup, quand on parlait tout à l'heure de l'édito et tout, c'est ce que je me dis aussi au début. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je me dis, je veux pas que ça excède idéalement une demi-heure, aller 40 minutes, parce que, en fait, j'ai peur que les gens aillent pas jusqu'au bout. Et ça me fait un peu chier de me dire que j'ai bossé sur l'épisode, sur tout ça, que la personne, elle est venue pour pas qu'on l'écoute jusqu'au bout. Même si je respecte de ouf, et toi d'ailleurs t'en fais partie parce que les épisodes sont très longs, de plus d'une heure, et en fait c'est passionnant. Et là d'ailleurs, celui qu'on est en train d'enregistrer, tu vois, on est déjà à une heure, mais...
Et c'est ok, c'est ok.
Mais ouais, clairement. Non, mais clairement, les épisodes longs, c'est aussi hyper enrichissant. T'as des très très bons podcasts, même la plupart, j'ai envie de dire aussi, ils font plus d'une heure. Hein. C'était un parti pris au début de me dire que ouais, ce serait court, quoi. Ce serait court et en espérant que les gens le consomment assez facilement, justement. Je me disais au début, ce serait le temps d'un trajet, justement, le temps d'un trajet moyen de métro ou pas. Tu peux t'en écouter un. Voilà, ça passe bien.
Et du coup, pendant le confinement, donc, tu abaisses un peu la pression des écoutes. Tu te dis, je poursuis jusqu'au 50. Mais du coup, tu prends une autre philosophie. Tu kiffes toujours autant et tu te mets en mode... animation d'une communauté. Je crois que c'est à cette période aussi que tu rencontres la communauté Podcast Makers.
Ouais, en gros, bah ouais, c'est ça. Le confinement. Alors Podcast Makers, je suis dessus depuis justement quasiment au moment où j'ai commencé, parce que Raphaël, du coup, le fondateur un peu de cette communauté Podcast Makers, je l'avais rencontré justement à l'époque en Suisse quand j'avais Wash & Move, donc ça qui est très drôle. et je le retrouve sur LinkedIn par hasard et je vois qu'il lance ce truc là je me dis tiens, c'est ouf, je lance mon podcast, il lance ça, génial, je rejoins le truc et je vois que le Slack est hyper bien fait, que lui il est ultra au taquet, il anime ça, c'est juste énorme ce qu'il donne comme temps et comme énergie là-dessus.
C'est vraiment fou.
Ah ouais, franchement, c'est juste
Big
génial
up.
Et pendant le confinement, en fait, je profite du temps qu'on a. Enfin, moi, je bosse beaucoup avec Ouyel parce que l'aide à domicile pour personnes âgées, je peux te dire que pendant le mars-avril, on en a chié comme pas possible parce qu'on aidait vraiment en permanence les hôpitaux à évacuer les lits pour les transformer en lits de réanimation ou lits de Covid. Donc nous, on a charbonné vraiment beaucoup. Mais à côté de ça, j'essayais quand même de développer du réseau parce qu'on était tous cloîtrés chez nous. Et donc, j'utilise beaucoup, beaucoup LinkedIn. Et donc,
c'est là où on s'est chopé.
Ouais, c'est ça.
C'est là où tu m'as invité et je suis passé à côté de la notif parce que tu me parlais déjà de Podcast Makers. Et c'est vraiment, on va dire, au déconfinement où on a pris cette bouffée d'air frais en mai que je t'ai rappelé immédiatement parce que
exact.
Là, j'ai sauté dessus. Quoi.
Exact. Non, donc, mais
merci,
c'était trop
merci.
Cool.
Un grand merci à toi.
Bah, avec grand plaisir, tu rigoles. J'ai essayé d'en parler beaucoup parce que je trouvais que justement, cette communauté, c'était une vraie force. Moi, j'ai essayé de rajouter beaucoup de podcasteurs, quasiment tous les podcasteurs de France, j'ai envie de dire, via LinkedIn, en tout cas ceux qui l'ont inscrit sur leur profil. Et je rajoutais toutes les personnes avec une petite invitation, leur disant, on fait des podcasts tous les deux, bah, viens, on échange, parce que ça ferait plaisir de papoter là-dessus. Et quand les gens acceptaient, genre, bah, voilà, un de mes premiers messages, c'était, et si jamais ça t'intéresse, bah, tu peux rejoindre la communauté Podcast Maker, c'est un super groupe, ça te fait plaisir, c'est un Slack.
Et moi, au début, j'ai cru que c'était toi qui animais, quoi.
Ah non, non. Et puis là,
c'était
maintenant,
tellement
je suis
pro.
Moins... Et... Ouais, non, mais...
C'était tellement pro, tellement quali la présentation, ton introduction, tout ça. Vraiment très très chouette. Et du coup, qu'est-ce que. Tu arrêtes la saison 1
en juillet.
Juillet, voilà.
Ouais, c'est ça.
Tu te prépares tout le mois d'août pour la saison 2.
Ouais.
Aujourd'hui, quelle est ta vision du podcast français ?
C'est une vaste, vaste question. J'avoue que je me rends pas trop, trop compte. Là, surtout qu'en plus, on va être honnête, hein, j'ai coupé pendant quasiment un mois, tout le mois d'août. Donc, ma saison 1 était finie. Donc, tu vois, le hasard fait bien les choses pile avant que je parte en vacances. Donc, j'ai sorti un épisode débrief pile avant que je me barre, genre le 31 juillet. Et j'avais enregistré un ou deux épisodes avant pour être tranquille à la rentrée, justement. Et donc là, je me remets au taf depuis donc, une semaine. Depuis, donc, je suis rentré la dernière semaine d'août. Là, le 24 août, j'ai repris le boulot. Donc je repars moi sur une dynamique la même que j'avais avant, mais avec des nouveaux invités, une nouvelle saison encore plus folle, j'ai envie de dire. Là où je vois le podcast français, honnêtement, je sais pas trop quoi dire. Je vois que ça prend quand même, il y a un super engouement. Il y a de plus en plus de podcasts qui se créent, de plus en plus de gens qui ont envie aussi de créer leur podcast. Donc d'un côté, on peut voir ça comme un marché qui commence à se saturer. Et à la fois, je trouve que c'est aussi hyper riche, c'est une force parce que du coup, il y a toutes les thématiques, plein de sujets qui sont abordés. Les gens, vu qu'on a accès à de plus en plus de ressources, sont aussi beaucoup plus quali dans la création de leur podcast. Des gens comme toi aussi avec Podcast Mania, tu vois, qui veulent apporter vraiment leur pierre à l'édifice sur la communauté des podcasteurs en France et accompagner du coup les podcasteurs à faire les choses bien, entre guillemets, dans l'ordre pour que les gens soient satisfaits de leur travail. Tout ça, voilà, c'est ce qu'on voit. C'est des mecs comme Rav, des mecs comme toi qui sont partie intégrante en fait de la montée du podcast en France et qui ont envie d'accompagner les gens. Et on sent que les gens, ouais, ils kiffent.
Est-ce que du coup, le fait qu'il y en ait de plus en plus, que ce soit de plus en plus quali, automatiquement, ça va aussi éduquer un petit peu et amener de plus en plus de monde. Aujourd'hui, il y a à peu près 10% des Français actifs qui écoutent des podcasts tous les mois. Bien sûr, ces 100% de ces mêmes personnes sont aussi sur YouTube. Donc l'idée, c'est de potentiellement faire diminuer l'un pour augmenter l'autre, même si du podcast, on peut en écouter quand on fait autre chose, justement. Tu penses que c'est vraiment lancé ce mouvement d'écoute d'une génération qui, OK, ils ont compris que le podcast existait et que c'est presque automatique maintenant?
Ouais, sans doute. Et puis après, je pense que les gens, ils vont... Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les personnes qui se lancent dans le podcast. Beaucoup partent aussi avec, je pense, une idée de monétiser rapidement, peut-être d'en vivre. Ça, je pense que pour le coup, c'est beaucoup plus dur. C'est assez compliqué aujourd'hui de monétiser son podcast parce qu'il faut que tu aies forcément une audience. Et une audience, ça demande du temps avant de se créer. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je pourrais jamais en vivre là, actuellement. C'est pas possible. J'ai trop peu d'écoute. Alors que pourtant, je mets du temps dedans. Je pense que je fais du bon taf. C'est ouais. Ça. J'essaie de faire quelque chose de très quali. Mais c'est pas si évident que ça. Donc, il faut que les gens ils aient ça en tête. Ce que tu disais aussi très bien tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de podcasts qui meurent au bout de 2, 3, 4 épisodes max, tu vois.
Bah oui.
Parce que les gens, ils se lancent, puis au bout d'un moment, ça les fait chier, ou ils voient que justement, ils vont pas pouvoir en vivre, que c'est trop compliqué, et ils baissent les bras. Donc.
Tu penses qu'il faut. Il nous manque deux choses. Je parle vraiment en tant que podcasteur indépendant qui fait un petit peu ça avec et qui démarre ça sans avoir 100 000 abonnés Insta, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il manque des outils? Parce qu'en fait, il y a une multitude d'outils, de plateformes d'écoute et il y a un petit peu, on va dire, c'est pas encore aussi organisé et aussi structuré que, OK, tu veux faire des vidéos, tu crées ta chaîne YouTube et ça sera OK. Tu mets un maximum d'efforts et tu comprends un petit peu l'algo de YouTube. Là, il y en a vraiment beaucoup plus d'acteurs. Tu penses qu'il manque un outil? Et est-ce que tu penses aussi qu'il manque... c'est pas un manque puisque Podcast Makers existe, mais est-ce que tu penses qu'une solution de collectif peut aussi amener à valoriser même des podcasteurs, des émissions avec peu d'écoute dans un collectif qui représente quelque chose de plus gros, plus grand?
Ouais, je pense qu'il manque une concentration peut-être des ressources ou des outils parce que justement il y en a un peu dans tous les sens et les gens sont peut-être un petit peu perdus à ce niveau-là. Ça, c'est pour cette première question. Je rebondis sur la deuxième. Je pense que le collectif, c'est une très bonne chose parce que pour moi, et je pense que si on n'a pas compris ça avec justement le confinement qu'on vient de vivre, c'est qu'on a raté quelque chose. C'est l'entraide, en fait. L'entraide. Il faut vraiment qu'on s'entraide. Il faut vraiment qu'on arrête de voir les autres comme une concurrence. Ça, je serais bien même d'en parler, mais en vrai, c'est ça vaut mieux pas que j'en parle ici parce que j'ai vécu un truc au tout début où je t'en avais parlé, où je lançais le podcast et c'était pas fun du tout et on n'est pas là pour ça. Mais il faut arrêter qu'on voit justement les autres podcasteurs comme des concurrents. Et il faut vraiment qu'on se prenne main dans la main et qu'on essaie tous de se tirer vers le haut. Donc, s'il y en a qui réussissent, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment d'autres. Au contraire, il faut que ça serve les autres. Donc, un collectif, moi, je trouve ça génial. Au même titre que ce que fait du coup Raph avec Podcast Makers, où du coup, il y a une grosse communauté, il y a une grosse entraide. Si quelqu'un a des questions sur quoi que ce soit, il les pose. Il y a tout de suite quelqu'un qui répond. Il y a tout de suite du partage d'infos sur les nouveautés, sur comment améliorer. C'est génial ce qui se crée. Et ce que je voulais dire aussi juste avant, peut-être pour ta première question, c'est on voit aussi l'engouement du podcast à travers aussi les grosses marques, tu vois. Des grosses marques type Dior ou je sais pas trop quoi, tu vois, qui créent aussi maintenant leur podcast. Ça fait partie maintenant intégrante aussi du SEO, tu vois. Ça
du fait partie. Brand content et. Et des gros annonceurs, effectivement.
Exactement. Au même titre qu'aujourd'hui, tu vas lancer ton livre blanc ou je ne sais quoi, bah maintenant, passer dans un podcast, c'est aussi une super vitrine pour ta marque ou toi, pour ton personal branding. Si tu es un petit freelance ou un petit mec indépendant qui a envie de se créer une communauté, faire des formations ou vendre je ne sais quoi, on se rend compte que le podcast, c'est une super vitrine.
Nous, on a des agences RP qui nous contactent et qui nous proposent des profils.
Ouais. Bah, c'est exactement
ça. Alors, bien sûr, ça passe au comité éditorial entre moi et Laura et on valide ou pas. Pour l'instant, on n'en a validé qu'un. Ouais.
Ok. Bah ouais, clairement. C'est force aujourd'hui. Hein.
Ok, c'est vraiment compris. Ce sont maintenant des axes stratégiques qui peuvent avoir de l'influence, même à petite échelle. On n'est pas encore... un gros podcast et pourtant voilà, on est repéré parce qu'on fait les choses qualitativement, on met un petit peu les moyens et puis en fait ça coûte du temps aux personnes, mais aux invités surtout, mais c'est gratuit, donc ils ont raison de tester et de, ça fait aussi du, comme tu dis, du SEO en référencement.
Exactement.
Un nom, un lien, plusieurs liens dans les plateformes et c'est tout bénef pour beaucoup.
Ouais, c'est ça, c'est gratuit et puis on va pas se mentir, les gens ils aiment bien parler d'eux.
Bah bien sûr, regarde, t'as jamais fait un épisode aussi long et
j'ai
tu
jamais
adores.
Parlé de moi aussi longtemps, j'adore, je kiffe. Non mais c'est vrai, tu proposes aux gens de parler d'eux, de leur histoire ou d'un truc qu'ils ont vécu, évidemment que ça fait plaisir, au même titre que quand t'es en soirée. Moi ça devient un peu ma ligne édito d'ailleurs aujourd'hui de Phoenix pour cette saison 2 où je l'améliore un peu et je dis du coup que moi mes épisodes c'est comme si on se rencontrait en soirée ou qu'on se prend un verre en terrasse, un verre de pinard ou un café, ce que tu veux, mais qu'on est là en train de papoter quoi. C'est une discussion qui est hyper enrichissante et qui est hyper spontanée, qui est authentique. Aujourd'hui je pense que le mot d'ordre c'est l'authenticité. Peut-être bateau ce que je dis, mais c'est vrai, les gens ils veulent des choses authentiques. Pourquoi est-ce que les lives ça marche aussi autant, aussi bien sur le podcast que sur la vidéo que sur autre chose?
Parce
ils en
que
ont
ça
marre les gens que... Voilà, c'est ça, il faut voir la réalité en face.
Il y a de l'humain.
Il y a de l'humain, ça derrière. Peut foirer, et si ça foire, c'est normal en fait. Faut arrêter d'idéaliser tous les gens qui réussissent justement. C'est aussi pour ça que je lance Phoenix. C'est très beau d'avoir du succès, et je le souhaite à tout le monde d'en avoir, du succès. Mais avant d'arriver au succès, tu t'es pris les pieds dans le tapis plus d'une fois, et tu t'es mis la tête dans le caca aussi. Et ça, il faut pas l'oublier. Et c'est la réalité. Il y a des fois on se plante, des fois on a envie de bien faire et des fois ça marchera pas. Et des fois tu vas enregistrer un podcast et puis en réalité ton micro ça a pas branché. Et tu vas être comme un con du coup à la fin. Et
c'est comme ça, sûr.
Ça arrive. La fois prochaine, tu feras gaffe à deux fois, tu vérifieras tes branchements, tu vérifieras que le truc il enregistre bien, tu vérifieras que t'as des piles, tu vérifieras, tu vois. Mais ça sert à ça en fait. Donc l'authenticité c'est primordial aujourd'hui, on a besoin de ça. On vit tellement dans un monde fake avec Insta, avec tout ça, où on nous vend de la poudre de perlimpinpin, comme dirait Emmanuel Macron. Mais du coup... tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux, tu vois, les gens ils embellissent tellement tout que déjà ça cause de la dépression, parce qu'à force de voir sur les réseaux sociaux des gens qui sont tous ultra parfaits, que ce soit physiquement, qui ont des millions d'abonnés pour prendre une photo avec la dernière crème de je sais pas quoi et que toi t'es tout seul chez toi en train de manger un pot d'Agendas devant Netflix, tu t'ouvres un deuxième pot. Mais voilà.
C'est une parfaite réflexion, tout à fait d'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé et qu'on est très très content de prendre, on va dire, de structurer tout ça et de prendre de l'ampleur et de rassembler un collectif, c'est le top.
Faut pas oublier, faut le faire pour le kiff en fait. Si je peux dire un truc là-dessus, c'est qu'il faut vraiment le faire pour le kiff. Moi, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, l'évolution, tu vois, le fait que nous on soit rencontrés, qu'il y ait le truc avec Raph, que j'ai parlé avec plein de podcasteurs, que ce soit pendant le confinement, après, qu'il y en ait qui acceptent de venir sur le podcast. Parfois on s'appelle juste parce que ça fait plaisir, parfois on va se boire un verre. Et petit à petit, tu vois, genre tu crées justement, genre, je vais pas dire une communauté, mais tu crées de l'engouement au cours de ce que tu fais, parce que tu parles toi en fait, t'as juste à être sincère, encore une fois, tu fais des belles rencontres, on n'a rien à se vendre, ça, c'est un partage qui est bilatéral en fait, parce qu'on kiffe, on se kiffe parler tous les deux, tu vois, tout bêtement. Et puis un jour, on sait pas, dans 3 mois, bah toi tu crées un truc, tu m'intègres dedans, moi je crée un truc, je te dis tiens, est-ce que tu veux venir, et les opportunités elles se créent comme ça en fait. Donc faut pas être non plus trop court-termiste, c'est ça je pense aussi, on a du mal aujourd'hui à voir les choses, c'est que si on n'a pas des résultats en instantané, on baisse les bras justement. Et ça, ouais, ça arrive si, encore une fois, ton moteur c'est pas le plaisir. Si ton moteur c'est le plaisir, tu peux durer 1 an, 2 ans, 3 ans, t'en fous, tu fais ça.
Oh, ouais, la persévérance, la résilience, c'est ok. Bien
exactement,
sûr.
Exactement, exactement.
Prendre du kiff, prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire ces moments de flow. Quand tu enregistres, tu es dans un flow. Quand tu appuies sur stop, là, t'es.
C'est ça, tu te dis putain,
t'es
c'est
aux
ouf,
anges. T'as les frissons dans le dos. Tu te dis, ouah, j'ai une pépite de conversation, 15 c'est minutes, ça. 3 heures, c'est un flow et tu es vraiment au top. Le cerveau, c'est il doit avoir plein d'endorphines, plein de,
De ouf.
D'adrénaline.
Et un truc que j'ai changé aussi aujourd'hui, tu vois, c'est le montage. À l'époque, je me disais, putain, c'était presque une corvée. Je me disais, putain, ce week-end, il faut que je prenne du temps, il faut que je fasse le montage ce week-end à tout prix pour sortir l'épisode. Et ça devenait presque une corvée pour les quelques premiers épisodes parce que j'étais pas encore à l'aise avec ça, tu vois, avec le montage.
Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux.
Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, je prends un plaisir de ouf parce que du coup, je réécoute en avant-première ce qu'on s'était dit et je repère le truc et je me marre. Je disais tout à l'heure, là, le podcast que j'ai sorti cette semaine avec Arthur Legrel qui a fait du coup, qui est rentré du Vietnam jusqu'à Paris en vélo. Donc lui, c'est un ouf et on s'est marré pendant une demi-heure, trois quarts d'heure parce qu'en plus, c'est un pote de lycée. Et on se chambre tout le long, on se chambre. Quand je lui demande une lecture, je lui dis ouais, ne donne pas une BD parce que je sais quand il y a pas d'image, tu sais pas lire. Et tu vois, genre, et je réécoute ça tout seul chez moi en train de monter. Et j'étais mort de rire, C'était génial.
Et du coup, ton process a un petit peu, justement, il a sûrement évolué et il est amélioré. Tu passes combien de temps maintenant à monter?
Ah, beaucoup moins. En fait, maintenant justement, tu sais, je suis beaucoup moins. Je me mets moins de pression. Au début, je voulais vraiment que idéalement tout soit parfait, retirer tous les petits bruits, les trucs, etc. Aujourd'hui, justement, on parlait d'authenticité. Aujourd'hui, j'essaie de rien couper quasiment. Il y a que s'il y a un moment de blanc parce que j'ai posé une question et que ça dure 15 secondes avant qu'ils réfléchissent, je vais couper ce blanc-là, ou s'il y a un bruit. Mais globalement, maintenant, j'essaie de plus rien couper du tout. Et du coup, je passe très peu de temps. Je passe aller une heure sur le montage parce que mes épisodes, ils font une demi-heure, trois quarts d'heure.
Ouais,
je passe
une
heure et demie.
À peu près.
C'est ça en gros. Je passe une heure
toujours
et demie sur le
Audacity.
Montage. Toujours sur Audacity, ça marche très bien. J'ai mes pré-réglages qui sont là. Je trouve que la qualité du son, elle est bien. Voilà, ça me va pour l'instant, franchement, nickel.
Super. Quelle est l'invité, la personne que tu aimerais vraiment, moi, j'ai dit que c'était Thomas Pesquet. Je sais que Mathieu Stéphanie, c'est Zidane. Noël École, c'était Booba. Parce qu'il avait un jingle avec la musique de Booba. Quelle est la personne que tu souhaiterais vraiment le plus au monde voir derrière le micro de Phoenix?
C'est une très, très bonne question, ça. C'est une très, très bonne question. Même si je parle très mal anglais, je vais en citer, je pense, un ou deux ricains qui me feraient plaisir. Après, un français, on va dire, même si c'est très... il y aura jamais un ricain, donc c'est ça qui est drôle. Moi, j'adore, je suis beaucoup. Après, c'est clivant et je m'en fous. Gary Vaynerchuk, j'adore ce mec.
Ouais.
J'adore Gary V. Ce mec-là, c'est une grosse, grosse source d'inspiration, au même titre que Simon Sinek. C'est deux mecs, deux ricains. Deux gros mentors, entre guillemets, que j'ai envie de dire, que je suis beaucoup, que j'adore.
Je valide.
Franchement, ces deux mecs-là, deux ricains, ce serait peut-être l'un des deux. Et un français... putain, ça c'est dur, je t'avoue. Parce que... Ouais, pareil. Qui est-ce que je pourrais...
Un ou une connu ou pas connu. Hein.
Ouais, ouais, bien sûr. Bah, ce que j'allais dire, là, je prends des connus, mais en réalité, moi, ma ligne éditoriale, justement, c'est de prendre que des gens qui sont pas connus aussi. Donc, moi, c'est que des gens du quotidien sur Phoenix, c'est pas des gens connus. Donc, c'est pour ça que là, c'est un peu plus dur pour moi d'y réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Qui est-ce que je trouve ultra inspirant ? Parce que, mon Dieu, qu'il y en a. Tu m'as pris à mon propre piège, j'ai retiré cette question d'ailleurs de Phoenix. À l'époque, je demandais quelle était la personne la plus inspirante pour toi. Merde, à mon tour.
Tu vois, moi je suis très content d'avoir, j'ai eu un super cadeau et peut-être que ça peut répondre à cette question. J'ai eu un super cadeau au début du confinement, un enregistrement, un interview de ma grand-mère qui n'est plus là, mais du coup, une conversation d'une heure. Enregistré en l'an 2000, et ben on l'a republié.
Enfin, ouais, je me rappelle. Quand tu étais au téléphone, tu m'avais dit ça.
On l'a publié direct. Et le fait que tu travailles chez WeHelp, que tu aies un podcast, pour moi, le podcast, c'est une formidable trace transmise en héritage. On va dire que c'est 30 minutes, 2 heures de voix d'une personne, d'un parcours. Hyper intime, hyper profond, et je me dis que tu pourrais bien enregistrer tes grands-parents.
Ouais, ça me ferait marrer, il faudrait que je vois, c'est un truc que j'y ai déjà songé en plus, ça, c'est drôle, c'est drôle que tu dis ça, mais il faut que je vois s'ils sont chauds un peu là.
Après, non, publier ou pas publier, hein.
Oui,
mais
c'est
rien
clair.
Que les enregistrer déjà,
ouais,
c'est
ça me ferait
un
marrer.
Kiff.
Ça me ferait marrer, je vais peut-être tester, c'est une très bonne remarque. Bon, pour répondre, je pense qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est... peut-être Christophe André.
Je ne sais pas
si toi qui c'est, un philosophe, Christophe André.
Ouais.
J'aime beaucoup ce qu'il écrit, très posé, pareil. Il arrive, j'ai envie de dire, à vulgariser la pensée un peu philosophique. Et au même titre qu'un Mathieu Ricard, tu vois, genre, je trouve ces mecs hyper, hyper inspirants, hyper posés et qui feraient beaucoup de bien sur notre génération de télé-réalité.
Tu continues à faire... Justement, à propos de méditation, tu continues à faire cette routine matinale ?
Ouais, je continue. À chaque fois, j'ai un petit break et je suis très content d'avoir repris là direct depuis la semaine dernière, depuis la rentrée. Mais depuis donc plus de 3 ans où je fais ça, chaque année, je casse cette routine pendant l'été. Tout bêtement, bah parce que quand tu te prends 3 semaines de vacances et que tu te torches la tronche tous les soirs quasiment, bah forcément tu te lèves pas à 6h30 du mat. Donc chaque année, je sais que c'est très dur parce que la routine, elle est cassée toujours là pendant juillet-août et j'ai beaucoup de mal à m'y remettre en septembre. Là, je m'y suis remis direct je me rends compte aujourd'hui
tu vois
que ça
l'évolution.
Me fait un bien fou. Ouais. Aujourd'hui, je sens que c'est indispensable de m'accorder cette petite heure le matin. Pour moi, avec, comme je te disais tout à l'heure, un peu de sport, un peu de méditation, j'ai besoin de me poser avant de commencer ma journée avec ça. Et donc, non, je continue toujours, ouais, clairement. Ça me fait beaucoup de bien.
Super. Tout à l'heure, on a à peine évoqué un petit projet aussi en parallèle. Avec un pote, vous avez lancé une association pendant le confinement. On peut en parler un petit peu.
Bien sûr. Ouais. Il faut d'ailleurs qu'on se pose avec Mike parce qu'il faut enfin qu'on lance ce truc-là. Je vais raconter toute l'anecdote. Mais pendant le Covid, au tout début, première semaine de confinement, avec Michael, on s'appelle, on est au taquet. Moi, je n'ai jamais eu autant d'investissement dans mon taf parce que je me dis, tiens, c'est ouf, les gens, ils sont chez eux, peuvent rien faire. Moi, j'ai un réel impact dans mon taf aujourd'hui. Parce que là, j'aide clairement les hôpitaux à évacuer les lits. Et je suis un peu en première ligne avec nos auxiliaires de vie. Enfin, elles le sont clairement. Je peux dire que les auxiliaires de vie sociale, gros big up à elles parce que c'est un taf qui est vraiment pas valorisé et qui est indispensable aujourd'hui. Donc, ce qu'elles ont fait pendant le Covid déjà, c'est magnifique et ce qu'elles continuent à faire tous les jours. Donc ça, pour ça, je voulais leur passer un gros big up, bien évidemment. Et en fait, au début, avec Mike, on s'appelle et on se dit, mec, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider en plus ? Comment on peut filer un coup de main aux assos ou je sais pas quoi ? Et on se dit, bah écoute, viens, on crée un petit site humoristique où on vend des t-shirts et en fait, on refile 100% des bénéfices à l'Institut Pasteur, à la Fondation de France. Et du coup, en un week-end même pas, bah, on monte le site internet, on fait des créas de t-shirts. L'association, on trouve le nom, ça s'appelle « L'humour fait la force ». Donc en
trop
gros, vous pouvez retrouver ça sur mon profil LinkedIn dans tous les cas. Ça s'appelle donc L'humour fait la force. Et donc c'est ça, on vend des petits t-shirts humoristiques, soit brodés, soit floqués. Et on reverse 100% des bénéfices à des associations caritatives. Cette année forcément à l'Institut Pasteur pour la recherche contre le Covid-19. Et donc, on se lance, on est au taquet, on est déjà prêt à lancer le site et tout. Et bah, vu que tout est fermé pendant le Covid, l'administration française, tout est fermé, les préfectures et tout. Du coup, pas de numéro RNA, pas de numéro de SIRET pour l'association.
Ah ouais.
Donc, du coup, on ne peut pas ouvrir de compte bancaire. Et donc, quand on lance le site une première fois, PayPal nous bloque, en fait. PayPal nous bloque parce qu'on n'est pas reconnu comme une asso. Ah. Et que pour chaque produit qu'on vend, eh ben, en fait, ils nous débloquent les fonds qu'à partir du moment où la personne elle a été livrée. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, on est pendant le Covid, une livraison, ça prend minimum 3 semaines. Et donc, ça veut dire que nous, personnellement, on doit avancer les frais de production et de livraison, donc grosso merdo, 10 balles, pour chaque produit. Donc, en gros, on est niqué, tu vois. C'est impossible, on ne va jamais pouvoir avancer. Si le truc prend et ce qu'on espère, ce n'est pas possible, tu vois. Donc, on décide, au bout de 15 minutes où on a lancé le site et qu'on a commencé à en parler autour de nous, ouais, allez, au bout d'une demi-heure, on coupe le site. On coupe le site parce qu'on commence à avoir des commandes de partout et on ne peut plus répondre en fait. Enfin, on se dit qu'on ne va plus pouvoir répondre au bout de 2 jours parce que si le truc prend vraiment, il va falloir que nous, on avance les frais. Donc, on met le truc en stand-by. On dit à tout le monde, désolé, il y a eu trop d'engouement et en fait, bah, nous, on ne peut pas avancer les frais. Et donc, on met ça en stand-by. 2 mois après, on a enfin notre numéro RNA, notre numéro de SIRET. Et donc, je crois qu'on arrive quasiment à mi-juin. C'était presque pour mon anniv. Bah, ça y est, en fait, tout est quasiment plutôt prêt. Et donc là, il faut qu'on relance la machine.
Ouais, la machine a été un petit peu...
on nous a coupé l'herbe sous le pied, ça nous a beaucoup frustrés. Ouais. Hein. Je peux dire qu'on a fissuré avec Mike. Hein. On a fissuré, on a essayé de contacter le gouvernement, enfin tous les trucs, le ministère, par Twitter. On envoyait des mails partout. On essayait, je te dis, de les avoir sur Twitter. On était là en mode, mais les gars, en fait, on veut aider des gens. On veut récolter des fonds, c'est même pas pour nous, parce que nous, on se mettra jamais un centime dans la poche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu créer une entité, une association de 1900. C'est pour qu'on nous dise pas, ouais, vous êtes 2 mecs qui voulaient profiter du Covid et qui voulaient vous en mettre plein les poches. Non, c'est pas pour nous. La thune quoi qu'il arrive et donc on peut même pas faire ça et on a été ultra frustrés et donc aujourd'hui bah, l'asso elle est enfin créée ça depuis cet été donc bah, là on va essayer de relancer la machine là pour septembre. Ce serait cool. En gros c'est des t-shirts à 20-25 euros et qui nous coûtent en gros une dizaine d'euros, allez 10-12 euros entre le coût de production et le coût de livraison parce qu'on fait pas payer la livraison donc on l'intègre dans nos coûts. Et voilà, et si les gens ils veulent prendre un t-shirt, bah, c'est super cool. Enfin, c'est un petit truc, une petite appartenance, il y a des petites phrases très mignonnes, brodées, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Et donc voilà quoi.
Vous avez trouvé facilement le partenaire qui produit ?
Ouais, en fait, on fait ça de manière très simple avec un Shopify en fait. C'est un petit site Shopify avec un intermédiaire. En fait, c'est un intermédiaire qu'on a du coup qui s'appelle... Printful, qui est du coup un site d'impression à la demande, qui nous permet justement de pas gérer les stocks, tu vois. On n'a pas besoin de se dire, on achète 1000 t-shirts, tant de M, tant de L, tant de XL, etc., avec tel type de typographie, etc. Donc les gens, ils prennent directement ce qu'ils veulent. T'en veux 1, 2, 4, 12, nous c'est pareil, quoi.
Trop bien. On va passer maintenant aux petites questions. J'ai pas été chercher très très loin. J'ai repris les mêmes que toi. tous tes invités y sont passés, moi aussi.
Énorme.
Je vais passer dans la saison 2 du coup, bah, direct. Pour toi, ça veut dire quoi l'échec ?
Pour moi, c'est quoi l'échec ? Bah, l'échec, c'est une partie intégrante de nos vies à toutes et tous en fait. C'est juste le chemin un peu classique, j'ai envie de dire, de la vie. Ça peut être, comme le disent beaucoup les invités, et je suis assez d'accord du coup là-dessus, c'est la non-atteinte d'un objectif que tu t'es fixé. Mais c'est indissociable du succès, en fait, justement, comme je disais tout à l'heure. Tu te manges les pieds dans le tapis avant d'arriver au plus haut, en fait, c'est obligé. Et c'est à toi de décider, en fait, toutes ces petites phases, toutes ces difficultés qui t'arrivent dans la vie. C'est très, très dur quand ça t'arrive, parce qu'émotionnellement, c'est très fort. Mais il faut que tu arrives à les tourner positivement. Il faut que tu arrives à te dire, ok, là, ce qui m'arrive, c'est très dur. Clairement, je suis au fond du gouffre. Peut-être que là, je suis au fond du seau, vraiment, quoi. Mais je vais rebondir. C'est obligé. Je peux pas rester là à me morfondre, en fait. Ou alors, enfin, c'est un choix, tu vois. T'as le choix de rester là et te mettre en boule, en position fœtale, et être là, genre, ma vie, c'est de la merde, c'est horrible, tout le monde est contre moi. Ou te dire, ok, maintenant, ouais, j'ai un truc de merde qui m'arrive, mais vas-y, j'avance, en fait. Il faut que je reste en mouvement. Tout le temps. Et à un moment donné, plus tu vas rester en mouvement, plus les belles choses, elles vont se présenter à toi, justement. Parce que tu auras fait preuve de résilience. Parce que tu te seras accroché. Et parce que tu te seras réinventé, en fait, tu te seras repensé, tel un phénix, justement, tu vois. tu auras renaît de tes cendres, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Tu ne peux pas, mais il faut s'en servir, au contraire du passé, tu vois, pour savoir d'où tu viens. Mais il ne faut pas trop regarder derrière. Il ne faut pas trop regarder derrière. J'aime bien ce synonyme, je l'avais sorti à ma mère, ça, une fois, le synonyme de la bobine, en fait, tu vois, une bobine de fil. Une bobine de fil, quand tu l'achètes, elle est toute compacte. C'est beau, une bobine de fil comme ça la première fois, tu vois. Et en fait, tu vois, quand tu tires ta bobine, ok. Si tu cherches à réenrouler la bobine, toi, à la main, t'arriveras plus jamais au résultat que t'as trouvé, en fait. C'est impossible. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, il faut arrêter de vouloir à tout prix se rattacher au passé, tu vois, et essayer de renrouler cette bobine, parce que ce sera plus jamais pareil, en fait. Il faut accepter que ce sera plus jamais pareil. Et tant mieux, en fait, que ce soit plus pareil. Donc, il faut avancer. Il faut se dire que c'est très cliché, mais elle est vraie, cette phrase. Qui tue pas te rend plus fort. Il n'y a pas pire que la mort, en fait. Et je pense qu'on est tous rattachés à ça le jour où on a quelqu'un autour de nous, un proche qui décède, un proche ou une connaissance même. Et on se rend compte à quel point on est de la merde, en fait, sur Terre. À quel point on est rien. On est un instant, en fait. Et si on est là à se morfondre pendant le seul instant où on y est, bah ça sert à rien, en fait. Ça sert à que dalle.
T'es vraiment passé du côté de... Tu es un maestro de l'échec.
Bah, tout à l'heure, je ne sais pas si ça s'est senti dans ce que j'ai dit, mais j'en ai vécu des échecs différents. Hein. Je te dis, je n'ai pas été sportif professionnel alors que j'aurais aimé vraiment très très fort quand j'étais gosse, jusqu'au bac. J'ai retapé ma seconde, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai tous mes meilleurs potes et tout mon réseau grâce à ça, mais donc un échec scolaire. Je me suis replanté à HEC, tu vois, parce que j'ai arrêté à HEC, donc un deuxième échec scolaire. J'ai planté ma boîte, enfin, en tout cas, je ne l'ai pas amené au niveau que j'escomptais. J'ai foiré mon couple avec une nana avec qui j'étais pendant très longtemps et où je pensais sans doute peut-être faire ma vie, et ça n'a pas été le cas. Là aujourd'hui j'en aurai d'autres, hein, des échecs encore, hein. Et c'est tant mieux, en fait, tant mieux, il y en aura plein d'autres.
Comme ça qu'on apprend, qu'on grandit, effectivement.
Bien sûr.
Peux-tu nous partager les trois vertus qui sont pour toi les plus importantes?
Les trois vertus, et surtout je pense que je vais en donner trois, parce qu'à chaque fois les invités me demandent est-ce que c'est des vertus qu'on a ou qu'on n'a pas. Je dis je m'en fous, tu me dis ce que tu veux. Mais moi perso, je pense que je vais en donner trois que j'ai pas nécessairement, mais qui sont pour moi primordiales. La première, c'est la patience. Je pense que ça, la patience, c'est quelque chose qui est primordial, qui est quelque chose qu'on doit davantage développer, quelque chose dans lequel on doit croire, tout ce dont on se parle depuis tout à l'heure, tu vois, d'attendre qu'il y ait des opportunités qui se présentent, de développer de la résilience entre-temps. Il faut savoir être patient, il faut savoir accepter qu'il y a des moments dans la vie où il ne va rien se passer. Et c'est justement dans ces moments où il ne se passe rien qu'il faut que tu te construises et que tu construises d'autres choses, en fait.
Ouais.
Tout ne peut pas toujours...
En profondeur.
En fait, c'est ça. Soit tout arrive d'un coup, soit il n'y a rien qui t'arrive, en fait. Et il faut accepter ces phases-là. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut développer de la patience. Il faut développer... de la gratitude. Pour moi, la deuxième vertu, ce serait de la gratitude. Vraiment, je parlais du journal de gratitude que je fais, mais juste arriver à être reconnaissant de ce qu'on a déjà, de ce qui nous arrive, d'essayer de voir un maximum le verre, justement, à moitié plein. Ça va un peu de lien, gratitude, positivité, c'est un peu la même chose, je trouve, pour moi. Il faut arrêter d'envier les autres. Tout ce qu'on parlait aussi tout à l'heure au niveau de l'entraide, bah, tu vois, ça rejoint tout ça. Il faut être content si les autres réussissent. Il faut justement s'en inspirer et pas dire « Pourquoi lui, il a une Porsche et pas moi ?» Bah vas-y, bosse, gars. T'auras peut-être une Porsche toi aussi, si c'est ce que tu veux, une Porsche. Si c'est ce que tu veux, une grosse baraque, si c'est... Sois déjà heureux, je pense, c'est déjà une bonne chose. Sois content d'être en bonne santé. Sois content d'avoir ta famille autour de toi, d'avoir des amis, d'avoir un taf, d'avoir un toit au-dessus de ta tête, d'avoir de quoi manger. Et ce sera déjà bien suffisant, je pense, comme moteur pour essayer d'aller chercher plus si c'est ce que tu veux. Mais il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui n'ont pas un millième de ce que toi t'as. Donc je pense
Évidemment.
Qu'il faut arriver à être reconnaissant de ça. Donc la gratitude. Et en dernier, je dirais l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose pareil qui est très dur à avoir. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de très blanc ou noir, tu vois, quand ça va pas du tout, quand ça va extrêmement bien. Et en fait, je me rends compte que dans tout, dans la vie, il faut avoir toujours cette notion d'équilibre. Faut jamais être trop, même que ce soit en amour, tu vois, Ça peut être en amour, on pourra dire, tu peux être extrême, pas du tout. Tu vas être étouffant même si t'es extrême en amour, tu vois. Tu vas pouvoir te faire mal.
Mais est-ce que tu penses que justement, si je reprends l'analogie de la bobine, l'équilibre, on l'a uniquement comme à vélo, si on pédale, si on est actif, si
exactement.
Tous les jours on fait une petite chose pour nous garder justement en équilibre et on est en perpétuel déséquilibre. On est pendant une heure, on n'est que en famille et donc pas dans le taf. Et en fait, tous les jours, on s'articule, on avance comme ça, on bouge et c'est ça qui nous permet d'avoir ce virtuel équilibre.
Exactement. Il faut clairement rester en mouvement. C'est Martin Luther King qui disait ça, mais elle est très vraie, sa phrase. Il faut rester en permanence en mouvement, en réalité.
Donc, je suis très heureux de te dire que tu as déjà ces trois vertus.
j'essaye de les avoir en réalité.
Tu es patient. Tu es patient parce que tu t'es mis en, la barre à 50 épisodes. Tu fais le journal de gratitude tous les jours et l'équilibre, comme tous les jours, on est en mouvement. Enfin, pas comme tous, mais jour après jour, tu gardes le mouvement et tu rééquilibres à chaque fois les manques. Et tu avances comme ça, donc c'est top. Tu as les trois vertus.
On essaye en tout cas, on essaye de travailler dessus, hein, clairement.
Magnifique, que des pépites, vraiment. Je suis très très heureux d'avoir enregistré. Petite question ressources. Ouais. Qu'est-ce que tu partagerais en livre, en podcast, en film, en expo?
Ouais.
Petite découverte de l'année 2020.
En bouquin, justement, sur mon compte Insta donc du podcast, donc Phoenix Podcast, en story à la une, il y a 10 bouquins que j'avais mis du coup pendant le confinement, que j'aimais beaucoup.
Okay.
Donc que les gens peuvent aller rechercher. Il y en a un que j'aime beaucoup, justement de Christophe André, qui s'appelle « Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi ». Un bouquin que j'adore vraiment, mais vraiment vraiment beaucoup. La fabrique des miracles aussi, que j'adore en bouquin, de James R. Doty, où le mec apprend justement ce que c'est que la méditation quand il a genre 8-10 ans, alors que sa mère elle est dépressive, sous anxiolytique, que son père il est alcoolique, qu'il bat sa femme, et que lui ça devient l'un des plus grands chirurgiens des États-Unis. Donc, alors que le gars il a fait faillite trois fois aussi, enfin une histoire de.
Bah lui je vais le commander dès aujourd'hui.
Fabrique des miracles, franchement une pépite ce livre. Comme série, je regarde pas trop de séries là les dernières. Moi je suis très très sport en fait à la télé, je regarde beaucoup de sport, 95% c'est du basket, hein, faut se l'avouer. je regarde beaucoup de l'NBA, donc j'ai adoré The Last Dance avec Jordan là pendant le confinement. The Last Dance énorme, de Formula 1 j'ai regardé cet été.
Ouais, Formula 1. Un gros point commun, mon frère a eu et été aussi il a dû avoir à peu près le même parcours que toi, il a fait sport études et en basket.
Ouais, The Last Dance de Jordan, ouf. Comme film, qu'est-ce que je pourrais dire, moi depuis mon plus jeune âge je suis ultra fan de Louis de Funès, donc j'ai été élevé avec ça quand les gosses regardaient des dessins animés. Moi je regardais Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, je pense que c'est mon film d'enfance, clairement je l'ai dû le regarder 250 fois sans mentir. Il est juste magnifique et je l'ai regardé il y a pas si longtemps avec un œil beaucoup plus mature et tu te rends compte qu'on parle de racisme d'une manière qui est tellement belle en fait. Franchement, Rabbi Jacob, ouais, c'est juste magnifique. Donc j'adore Louis de Funès. Comme podcast, il y en a plein en fait, franchement. Il y a une liste de gens qui font des trucs de ouf. Toi, t'en fais partie. Noémie Kempf avec The Storyline, ouf. Lauren Malka, qui est venue sur mon podcast aussi, l'épisode 7 ou 8. Pareil, merde, j'ai oublié du coup le nom de son podcast. Oui.
C'est sur les artisans ?
Non, alors non. Ça, c'est Lisa Millet aussi. Très, très sympa sur les artisans, Lisa Millet.
Histoire d'artisan, la cohorte ?
Ouais, histoire d'artisan. Merde, je vais retrouver. Bon, en tout cas, vous tapez Lauren Malka.
Super.
Vous tapez Lauren Malka, elle est ouf. Il y en a plein. Tout le monde fait du très très bon taf. Bah ouais, Gabriel Gourovitch, Grossmakers pour le taf, ouf. J'en oublie plein en fait. Là, j'avoue qu'il y en a tellement des gars qui font du super taf dans les podcasts. Outrospection, j'adore. J'adore beaucoup Anissa, son podcast Outrospection. Super Nana aussi, que j'ai eu le plaisir de découvrir grâce à Podcast Makers sur le groupe, qui doit passer aussi sur le podcast. On a eu un très très bon feat avec Anissa. On a parlé pareil pendant 3 heures la première fois où on a fait un zoom. C'était ouf. Ouais, bref, trop de gens qui font du bon
taf.
Et
à quand un podcast We Help?
Eh ben, c'est très drôle que tu dises ça, parce que avant les vacances, on va se boire un verre avec l'équipe, Marquette notamment. On rigole un peu. Et l'idée sort comme ça, parce qu'ils savent du coup que je fais du podcast, ça les fait marrer un peu. Et l'idée sort en mode, tu vois, si on fait un podcast pour rigoler avec le We Help, genre on appellerait ça les We Histoires Drôles, tu vois, genre ça pourrait être les petites anecdotes justement de l'aide à domicile. C'est quelque chose qui est sur une to-do, qui n'est pas encore très très approfondi, parce qu'on a beaucoup de choses à faire en ce moment.
2021.
Mais peut-être que ouais, ça pourrait venir. Il faut qu'on voit un peu justement la ligne édito, etc. Vu que là, c'est pour une boîte, c'est un peu moins à l'arrache que ce que moi j'ai pu faire avant. Donc, il faut qu'on
ouais,
le voit
en même
un
temps,
petit peu plus.
Maintenant, t'es très très quali, très très
oui.
Calé. Donc,
ça,
c'est bon.
Ça ira. Ça ira vite, je pense. Il faut okay. Juste qu'on se mette d'accord sur tout ça, mais why not?
Hâte de voir tout ça. Où est-ce qu'on te retrouve?
Alors, on peut me retrouver, donc, comme je disais tout à l'heure, sur la page Phoenix Podcast sur donc, Instagram. J'ai un petit site internet aussi, un petit site vitrine qui s'appelle donc, bah pareil, phoenixpodcast.fr. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, bien évidemment, Enzo Colucci, Colucci. Et puis, c'est déjà pas mal, hein, je pense.
C'est
je
déjà
suis hyper,
très, très bien.
Hyper, hyper accessible. Les gens vont me contacter sur LinkedIn, je réponds à tous les messages. Vous pouvez me contacter par mail, ce que vous voulez. Enfin, moi, j'adore échanger. Donc, j'essaie d'ailleurs toutes les semaines de rencontrer toujours 2-3 nouvelles personnes que je connais pas, à se faire un call ou à aller se faire un café. Donc, c'est toujours un très, très grand plaisir d'échanger. Donc, surtout, s'il y en a qui veulent, qu'ils n'hésitent pas.
Merci beaucoup, Enzo. Merci à Raph de permettre Offcast et d'animer de manière incroyable et généreuse Podcast Makers. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. J'espère que vous aurez appris un petit peu plus qui est Enzo, parce que tu avais beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça que j'ai laissé, qu'on a fait presque un épisode double.
C'est énorme.
De 2 heures presque. Génial.
On a rien
moi
senti.
J'adore.
On n'a rien senti venir, c'est ouf. Franchement, gros plaisir. Merci à toi, Gaël. C'était vraiment trop, trop stylé. Et merci encore, comme tu dis, à Raph pour la communauté, pour cette idée de Offcast qui est juste une pépite de pouvoir se découvrir entre podcasteurs et d'interagir vraiment ensemble. Et puis, tout le meilleur pour tout le monde et la vie continue.
Longue vie au podcast et merci encore à tous. Bye bye.
Ciao, ciao.